une production du Studio SF.
Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis Pierre Quentin, avec moi, Doom Plante.
Yo.
On est en ce moment dans notre nouvel espace qu'on a décidé de nommer l'atelier. Après une recommandation de nos abonnés sur Instagram. C'est un espace qui est lumineux, c'est un espace dans lequel on n'a pas fermé les fenêtres, donc la lumière du jour entre. Espace qui fait du bien, un espace vraiment? Dans lequel on est à l'aise, on est bien, on est assis un petit peu plus haut, en mode discussion dynamique. Puis si vous nous écoutez en ce moment, ben l'espace est disponible pour réservation, donc vous pouvez aller voir sur notre site web studiosf.ca dans le fond, ou nous écrire à info@commercialstudiosf.ca pour avoir plus d'informations sur nos désormais 3 espaces d'enregistrement de podcast. C'est-tu incroyable?
C'est-tu incroyable?
On est rendu, là, on l'a fait.
3 vibes complètement différentes au Studio SF, alors il n'y a plus de raison de ne pas faire votre podcast. Il n'y en a pas de raison.
Il n'y a aucune raison de
pas faire votre podcast. Si votre argument, c'était « Ouais, mais tout le monde dans le même local de studio », c'est plus vrai. Il y en a 3.
C'est plus vrai.
Il y en a 3!
Il y en a 3 espaces. Puis si votre argument aussi, c'était « Ouais, mais moi, j'aime pas ça, tu sais, la lumière artificielle », non! Puis si votre argument, c'était ça, honnêtement, mauvais argument. Mais c'est plus vrai. C'est plus vrai. Parce qu'ici, on est lumineux, on est rassembleur. C'est rassembleur quand même.
Mais c'est rassembleur. Écoute, ouais. Écoute, c'est tellement rassembleur ici. Là. Rassembleur, incroyable.
C'est incroyable. On a même rassembleur.
C'est rassembleur. On a même décoré, nous autres, même, on a amené tous nos livres. Fait que si vous voulez venir, puis en plus.
Lire
un petit bout du Le dernier jour d'un condamné de Victor Hugo, ben, vous pouvez le faire.
Puis honnêtement, pourquoi vous voudriez pas faire ça? Bref, cette semaine, aux Enfils,
on a
pour inaugurer le studio.
Ouais, le premier podcast dans ce nouvel espace, on avait le grand, grand plaisir de recevoir Benoît Arsenault, qui est professeur à l'Université Laval, à la Faculté de médecine, et qui est chercheur également, qui s'intéresse à la santé, qui s'intéresse au bien-être en général, qui s'intéresse à la nutrition, qui s'intéresse à la génétique humaine, qui s'intéresse au poids, à l'obésité, aux maladies cardiovasculaires, au diabète. On a parlé de tous ces sujets-là sur le podcast. C'était vraiment super intéressant. On a parlé plusieurs fois sur le podcast du lien entre... lien ou non-lien, en fait, là, entre le poids, la santé, sur la stigmatisation que vivent les personnes grosses. Je pense que Benoît, aujourd'hui, vient nous donner toute l'info de la manière la plus claire, la plus compréhensible possible, la plus juste, la plus détaillée, la plus informée. C'était un grand plaisir de le recevoir.
Ouais.
On le remercie.
Vraiment, vraiment. Puis on espère que vous allez aimer ça autant que nous autres. Juste avant de vous laisser la conversation, on va remercier nos commanditaires. Ça roule, merci d'avoir fait le chemin jusqu'à Montréal pour nous parler. C'est excitant.
Merci de l'invitation, les gars, je suis content d'être là.
Comme on disait, tu inaugures le nouveau studio. Tu es le premier invité à avoir ce nouvel espace.
Ah, c'est tout un honneur. Avec la lumière du jour, là, c'est vraiment parfait. Là.
Est-ce qu'on se sent bien dans le studio?
On se sent très confortable. Très à l'aise.
All right.
Écoute, on en parlait un petit peu avant, mais on va rentrer tout ça dans le vif du sujet. Là. Nous, ici au Sans Filtre, un des sujets, puis ça a donné de même quasiment. Là.
Pourquoi c'est devenu un sujet récurrent?
Ben, probablement parce que c'est un sujet controversé quand même, parce que le poids et la santé, chaque fois qu'on aborde la question ou chaque fois qu'on a abordé la question, on s'est fait critiquer de l'aborder parce que j'imagine que c'est un sujet sensible pour beaucoup, puis qu'on n'est pas non plus des gens qui vivent la marginalisation au quotidien, puis qui vivent cette... ou du moins qu'on vit avec le privilège d'être mince. T'en parlais dans le podcast de l'Uni, justement, la question du privilège de la minceur. Puis on pourra en revenir tantôt. Mais c'est pour ça que c'est important, là, de recevoir quelqu'un qui traite vraiment de l'aspect santé et scientifique derrière la chose, parce qu'on est drivé par la science, ici, au Sans Filtre podcast.
Absolument.
Puis on aimerait ça avoir ta perspective sur 1 million d'affaires. Fait que je sais même pas par où on pourrait commencer cette conversation-là. Là.
On pourrait commencer par le commencement.
Ouais.
Dans le sens qu'on pourrait... tu sais, je regardais ta feuille de route, tu sais, puis ton sur le site de l'Université Laval, ton axe de recherche qui est, dans les grandes lignes, santé et bien-être. Puis toi, c'est quoi qui t'a... Tu sais, la santé puis le bien-être, c'est une question qui nous touche tous, puis qu'on on est tous à la recherche de la santé et du bien-être. Là, pis, mais toi, c'est quoi qui t'a attiré vers ce sujet-là pour dire « je vais en faire ma carrière puis mon sujet de recherche » maintenant?
Non, mais ça, c'est une super bonne question. Écoute, on peut retourner très loin à mon adolescence. Là. Mm-hmm. Moi, j'ai toujours été super sportif. Mm-hmm. Puis moi, c'était le hockey dans le temps. Là. J'ai grandi en Abitibi, puis c'était le sport qu'il fallait pratiquer. J'étais gardien de but au hockey, puis il fallait s'entraîner l'été pour faire les grosses équipes, pour jouer dans les grosses ligues. Puis c'était dans les années 90, je veux dire. Ouais. Puis c'est ça. Là, pour performer, l'alimentation, c'est super important. L'activité mm-hmm. physique, le fait de s'entraîner pendant l'été. Puis moi, j'ai toujours été intéressé par les sciences aussi, particulièrement la biologie. Fait que là, je lisais toutes sortes de livres sur la nutrition, puis comment bien s'alimenter pour bien performer mm-hmm. avec les concepts, justement, d'il y a 25 ans qui sont pas nécessairement les mêmes qu'aujourd'hui.
Exact, ouais.
Mais ça, on pourra en parler. Mais moi, c'est de là qu'est venu mon intérêt pour justement la santé puis la bien-être. Puis évidemment, après, quand j'ai commencé à faire de la recherche là-dessus. Moi, j'ai fait mon bac en biochimie, puis à un moment donné, il fallait faire des stages, puis je me suis comme décidé, parce que j'avais vraiment trippé sur les cours de nutrition et métabolisme mm-hmm. que j'avais eu à cette époque-là. C'était les seuls cours dans lesquels j'avais eu des A, là. Le reste, c'était plutôt moyen. Mais j'ai commencé à faire mon stage, justement, je me souviens, ma deuxième année du baccalauréat en biochimie, puis j'avais contacté un chercheur à l'hôpital Laval, aussi parce que c'était juste à côté de chez nous, puis il fallait que je fasse un stage. Puis finalement, j'avais contacté le professeur Jean-Pierre Després qui a été, je dirais qu'il est encore aujourd'hui un mentor pour moi. Mm-hmm. Puis j'ai commencé à travailler avec lui, puis je me souviens très bien, tu sais. Lui, au début, quand j'ai commencé dans le labo, ma première journée de stage, il m'avait donné une pile de documents à lire. Ça, c'était il y a à peu près, presque une vingtaine d'années, puis c'était à l'époque où est-ce que tu sais les articles scientifiques c'était pas des PDF que t'écoutais mais c'était vraiment des articles sur du papier glacé dans des journaux scientifiques tout ça. Puis moi je lisais ça, puis ça a été ma première exposition à cette idée là que la relation entre le poids puis la santé c'est vraiment pas c'est vraiment pas comme c'est véhiculé dans les médias par exemple. Puis lui c'est un expert international sur l'obésité, mais surtout sur la distribution du tissu adipeux puis la composition corporelle. Puis moi j'avais jamais été exposé à ça, puis quand j'ai lu justement mes premiers articles puis je lisais ça, je me disais waouh, tu sais, ça fait super longtemps que je m'intéresse à cette question-là, puis j'ai jamais été exposé à ce message-là, parce que l'obésité, c'est une condition qui est très, très, très hétérogène. Y a des gens qui peuvent avoir un poids qui est relativement élevé, mais qui sont pas nécessairement à risque de développer des maladies. Tu sais, l'obésité, la façon qu'on va classifier ça, ou l'association entre le poids puis la santé, ça va être selon l'indice de masse corporelle. L'indice de masse corporelle, c'est essentiellement notre poids sur la balance divisé par notre grandeur élevée au carré. Puis,
ce qu'il dit comme ça semble absolument stupide.
Il manque des données, il manque des paramètres, me semble.
Ben c'est ça, mais tu sais, je veux dire, c'est encore aujourd'hui, en pratique clinique, dans les lignes directrices d'à peu près toutes les organisations scientifiques ou médicales, il va y avoir une section sur l'indice de masse corporelle. Mais tu sais, le poids, ça donne absolument aucune espèce d'idée mm-hmm. sur où dans ton corps la graisse ou ce qu'on appelle le tissu adipeux, cet organe-là qui contient des cellules qui s'appellent des adipocytes qui vont emmagasiner le surplus d'énergie sous forme de triglycérides, ce type de gras-là peut être distribué par exemple au niveau des hanches, des cuisses, des bras. C'est surtout un profil qu'on va voir chez la femme. Mm-hmm. Puis ça, c'est pas nécessairement quelque chose qui est mauvais pour l'organisme. Mm-hmm. Alors qu'au contraire, ben, chez l'homme, ben, il faut accumuler beaucoup moins de poids sur la balance pour avoir une accumulation de tissu adipeux à des endroits qui sont peut-être moins désirables pour la santé. Donc, par exemple, au niveau de l'abdomen, donc la graisse qu'on va appeler intra-abdominale, ouais, ou viscérale.
Je me rappelle avoir parlé de ça au cégep, cégep 2.
C'est pas bon. Ben, tant mieux, mais j'ai pas eu cette chance.
Éducation physique à cégep 2, je pense.
Ben, c'est ça. Puis là, à un moment donné, parce qu'il y a comme une saturation maximale à laquelle ton tissu adipeux, le sous-cutané, donc au niveau des hanches, des cuisses, des bras, peut accumuler de la graisse. Puis cette saturation-là, elle arrive beaucoup plus rapidement chez l'homme que chez la femme. Okay. Et puis, ben, ce surplus d'énergie-là, vu qu'il peut pas s'entreposer dans des endroits désirables, comme le tissu adipeux sous-cutané, ben, il va se retrouver, c'est ça, dans notre abdomen. Puis, ben, plus souvent qu'autrement, ben, ça va se retrouver après ça dans notre foie, dans notre cœur, dans nos muscles squelettiques, dans notre pancréas. Puis c'est vraiment ça qui va causer des dommages à l'organisme, comme par exemple des problèmes de cholestérol sanguin, de lipides sanguins, de sensibilité à l'insuline, d'hypertension. Donc, c'est des phénomènes qu'on va retrouver, mettons, à un certain IMC donné beaucoup plus rapidement, mm-hmm, chez l'homme que chez la femme, parce que chez la femme, il faut que la femme moyenne accumule beaucoup plus de poids pour avoir autant de graisse intra-abdominale ou au mauvais endroit que les hommes. Tu sais, nous, on avait fait une étude, justement.
Mmh. C'est intéressant, c'est la première fois que j'entends ça.
Bon, ben, tant mieux, ça sera déjà ça. Ouais. Et puis, ben, on avait fait une étude, justement, quand j'étais étudiant en doctorat, parce que, bon, après mon bac, j'ai fait une maîtrise en kinésiologie, puis après ça, un doctorat en physiologie, endocrinologie à l'Université Laval sous la supervision du professeur Després. Puis, ben, c'est ça, on avait regardé dans une grande étude qu'il avait faite, qui s'appelle l'étude des familles de Québec, puis eux, il y avait des techniques d'imagerie assez sophistiquées pour aller voir où exactement dans le corps humain la graisse
se retrouvait, les tissus adipeux.
Exactement. Donc, c'est avec des techniques là, par tomographie axiale, là, des scans. Okay. Puis on était capable d'aller vraiment voir avec beaucoup de détails où est-ce que la graisse était située. Puis on s'est rendu compte que pour que les femmes accumulent autant de graisse indésirable qu'un homme à un indice de masse corporelle de 30, là, qui est la catégorie qu'on dit obèse, là, j'ouvre, mm-hmm, les guillemets, mm-hmm, ben, la femme fallait qu'elle accumule un indice de masse corporelle jusqu'à 40. Donc, c'est rendu là, c'est plus l'obésité comme de classe 1, mais c'est de classe 3, là. Mm-hmm. Donc, premièrement, c'est ça. Fait quand on utilise l'indice de masse corporelle en pratique clinique, ben, il faut savoir que, t'sais, ça nous donne aucune espèce d'idée de où la graisse est accumulée, puis où, mm-hmm, où les problèmes de santé vont se situer. Puis ça, on le voit aussi dans les grandes études épidémiologiques, là, t'sais, des études qui ont pris des hommes puis des femmes qui les ont suivis pendant 10, 15, 20 ans, puis ont regardé c'était quoi le risque associé à un poids élevé. Ben là, plus ça va, plus on se rend compte que, ben, toujours pour un certain indice de masse corporelle, ben, les hommes vont toujours être plus à risque mm-hmm, que les femmes. Puis, ben, souvent, on va dire, comme par exemple, si je reviens aux différentes définitions là, d'indice de masse corporelle puis des catégories, ben, on va dire qu'entre 18,9 puis 25, c'est comme le fameux poids santé. Entre 25 et 30, c'est une situation de surpoids ou d'embonpoint. Puis en haut de 30, c'est des situations d'obésité. Puis là, plus on se rend compte, on fait de plus en plus de recherches là-dessus, ben là, on se rend compte aussi, ben, d'abord, dans un premier temps, c'est ça, qu'il y a des différences sexuelles, qu'il y a des différences à travers différents groupes ethniques aussi, mm-hmm, mais même que le surpoids, les indices de masse corporelle entre 25 puis 30, ce qu'on appelle le surpoids, ben finalement, c'est pas tant associé au risque de mortalité, là, autant qu'on aurait pu penser. Puis, une des façons aussi qui, tu sais, si on veut absolument des métriques là pour évaluer l'association entre le poids puis la santé, ben ce serait simplement de prendre son tour de taille. Et puis là, on le voit que, ben, peu importe l'indice de masse corporelle, avec le tour de taille, qui va comme être une espèce de façon qu'on a grossière là d'estimer où est située la graisse, si on a beaucoup de graisse intra-abdominale ou pas. Ben là, on peut le voir que, ben, justement, si on va dans des fourchettes d'IMC BMC qui sont très, très, très élevés, ben, les gens qui ont une circonférence de taille qui est faible, ben, ne sont pas nécessairement à risque de développer des problèmes de santé. Puis au contraire aussi, les gens qui apparemment auraient un poids santé, mais qui ont une circonférence de taille élevée, ben, souvent, on va voir beaucoup de cas de diabète puis de maladies cardiovasculaires puis d'hypertension artérielle se développer chez ces gens-là, même si si on a un poids qui est santé. Là. Donc, moi, je pense que, tu sais, ça prend... Il faut communiquer ce message-là parce que quand on fait juste simplement se fier sur le poids pour évaluer l'état de santé de quelqu'un...
Se fier sur un chiffre, là, ouais.
Exactement. Puis, tu sais, je vous dirais, même la circonférence de taille, c'est pas juste une façon détournée de dire qu'il faut absolument estimer les risques associés à l'obésité, mais c'est juste un exemple pour vous dire à quel point, ben...
C'est déjà une mesure un petit peu plus juste, là, même probablement imparfaite, mais déjà un peu plus juste que l'IMC. Hein.
Exactement. Puis lorsqu'on combine ça ben, avec des différents marqueurs de santé, puis t'sais, comme par exemple, je parlais du cholestérol, bon, ouais. du métabolisme, du glucose, puis de l'insuline, peut-être certains marqueurs inflammatoires, ben, ça peut un peu nous aider là, dans notre prédiction du risque de développer des maladies.
Parce que tout ça se mesure, tout ce que tu viens de nommer, tout ça se mesure chez...
Oui, absolument. Là, t'sais.
Mais fait, pourquoi qu'on accorde encore une valeur à l'IMC quand on est capable de mesurer, mettons, le niveau de cholestérol ou le niveau de tout ça?
Ben, on accorde une valeur probablement parce qu'on pense qu'on peut changer notre IMC. T'sais, on parle du cholestérol, puis t'sais, c'est sûr que n'importe quel clinicien va le dire. Là, ben, c'est sûr qu'on ne se fie pas juste sur l'IMC pour évaluer l'état de santé. Là, t'sais, on va passer un bilan lipidique, on va regarder votre glycémie, on va regarder tout un panel biochimique là, t'sais, quand vous faites votre examen annuel. Puis, tu sais, si vous avez des problèmes de cholestérol, par exemple, ben là, on va vous prescrire des médicaments pour baisser votre cholestérol. Puis, ben ça, on sait que si on baisse le cholestérol, ben on va changer la trajectoire là, du risque, puis on va diminuer le risque de développer, par exemple, des maladies cardiovasculaires. Mm-hmm. On l'amènera pas à zéro, là, mais tu sais, on va quand même diminuer notre risque. Moi, ce que je pense qu'on devrait faire, ben, c'est de s'informer un peu plus sur les habitudes de vie des gens. Tu sais, ça, il y a pas de guidelines officiels là, qui disent que, ben, tu sais, pour les gens, pour évaluer leur état de santé, il faudrait, par exemple, mesurer la qualité de leur alimentation ou leurs conditions physiques. T'sais, est-ce que ces gens-là sont actifs? C'est quoi leur condition cardio-respiratoire? Là? T'sais, moi, je le dis souvent, là, t'sais, si j'avais un marqueur là, qui pourrait prédire votre risque de mortalité cardiovasculaire ou même de mortalité de toute cause d'ici 10 ans, ce serait pas l'IMC, ce serait pas le cholestérol, ce serait pas de la tension artérielle, ce serait vraiment la condition cardio-respiratoire. Là. On te met sur un tapis, on te fait un protocole pour monter tes fréquences cardiaques vraiment élevées, on mesure les échanges gazeux pour aller chercher la quantité maximale d'oxygène que t'es capable de tolérer, donc ça s'appelle le VO2 max, là, pH, t'en as sûrement fait des tests comme ça, mais ben ça, le VO2 max, c'est vraiment un des, ben, je dirais même le meilleur prédicteur de mortalité cardiovasculaire, ben plus que tous les autres facteurs qu'on a parlé, puis ben ça, je veux dire, personne mesure ça en pratique clinique, là, malheureusement, là. Puis ça, c'est clairement démontré que chez les individus qui ont un VO2 max qui est élevé, par exemple, comme dans le 80e percentile de la population, donc les 20% des gens qui ont un VO2 max élevé, là, ça, tu sais, peu importe le poids, peu importe les facteurs de risque, là, c'est vraiment un puissant indicateur de mortalité là, sur 10 ans.
Le VO2 max, j'imagine qu'il est... qui a une bonne corrélation avec le niveau d'activité physique pratiqué par les personnes, en fait.
Oui, c'est sûr qu'il y a une grosse composante génétique aussi au VO2 max. Là. Il y a des gens qui vont aller chercher des VO2 max plus élevés. Là.
Des fois, je suis des triathlètes pros là, qui font des entraînements qui n'ont pas de bon sens puis qui ont les pulsations à 130 puis moi, je suis à côté pour faire le même genre d'effort à 180. Là, tu sais.
Oui, c'est ça. Puis il faut que tu sois capable de démonter tes fréquences cardiaques aussi. Puis ça, c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Là. Donc, tu sais, il y a une grosse composante génétique, biologique aussi, là, parce que c'est pas tout le monde qui répond de la de la même façon à ces tests-là, mais tu sais, je veux dire, les athlètes de haut niveau, quand même, ils vont quand même se retrouver dans le 20e percentile. Ouais. Tu sais, c'est sûr et certain. Là. Fait que, tu sais, oui, il y a des petites différences là, au niveau du pic que tu peux aller chercher. Mm-hmm. Puis même aussi, tu sais, je repense à ces études-là, puis je me dis, c'est peut-être pas nécessairement de cibler le fait d'être dans le 20e percentile, mais peut-être de pas être dans le 20e percentile le plus bas aussi, parce ouais. que c'est là que les plus gros gains sont faits. Là. C'est passé mm-hmm. d'une condition physique qui est pas super bonne à une condition physique qui est moyenne. On va faire mm-hmm. beaucoup plus de ça va avoir un impact beaucoup plus important sur la santé de la population que si, par exemple, on passait du 60e au 80e ouais, ouais, percentile. Ouais. Donc, voilà pour l'activité physique. Là.
Ouais. Mais et puis j'imagine que tu sais dans des études comme tu parlais tout à l'heure, des études sur le long terme, sur le 10, 15, 20 ans où est-ce qu'on suit des gens, ça va être extrêmement difficile d'isoler un facteur pour essayer de comprendre si c'est ça le facteur qui vient jouer avec l'espérance de vie puis avec la longévité là, tu sais, parce qu'il doit avoir tellement de facteurs autres que les mettons l'activité physique, la nutrition, le poids, toutes ces choses-là, il doit avoir un million d'affaires qui rend ça quasiment impossible à saisir.
Ouais, ben c'est ça. Nous autres, on s'intéresse beaucoup dans le cadre de mes recherches là, à trouver, mettons, l'algorithme parfait ouais. là, pour la prédiction du risque de maladie cardiovasculaire. Puis finalement, tu sais, on essaie de développer toutes sortes de modèles pour améliorer la prédiction. Puis on va évidemment mesurer les facteurs de risque qu'on a mentionnés tantôt. Mm-hmm. Puis c'est difficile d'avoir des études dans lesquelles ils ont mesuré ou premièrement s'ils ont posé des questionnaires sur l'alimentation ou même les niveaux d'activité physique. T'sais. Est-ce ouais. que vous avez un emploi qui est manuel? Est-ce que vous faites de l'activité physique récréative? C'est quoi les sports que vous faites? Est-ce que vous marchez pour aller travailler, etc. Donc ça, c'est difficile de trouver des cohortes qui ont mesuré l'ensemble de ces paramètres-là. Puis il y a aussi la génétique aussi, parce que tu sais, quand on parle de maladies cardiovasculaires, ben il y a évidemment aussi une grosse composante génétique. Puis ça, mm-hmm. je pense que c'est important d'en parler
ouais,
aussi.
Tout à fait.
Puis tu sais, pour les maladies cardiovasculaires, il y a des centaines, peut-être même des milliers d'endroits dans notre génome qui ont des variants génétiques qui influencent l'expression de nos gènes, puis qui vont nous mettre à risque de développer des maladies cardiovasculaires. Là. Donc, je pense par exemple à des maladies génétiques comme l'hypercholestérolémie familiale, entre autres, qui, c'est des enfants qui ont un cholestérol là, qui est dans le 99e percentile de la distribution de la population, puis tu sais, ces enfants-là sont pas traités, ils peuvent faire des infarctus mmh, avant l'âge mmh. de 10 ans. Là,
c'est pas une question d'habitude de vie, c'est vraiment génétique.
C'est ça, pas du tout. Mais dans ces situations-là ouais. extrêmes, c'est évidemment seulement la génétique, mais quand on regarde au niveau populationnel, ben ce qu'on remarque, c'est que les gens qui sont plus à risque de faire des infarctus, c'est les gens qui ont des facteurs de risque, mais qui ont aussi une prédisposition génétique. Mmh. Là, donc moi, je pense que le fait de faire du sport, le fait d'avoir une alimentation qui se rapproche des guidelines, par exemple, du guide alimentaire canadien, d'avoir une bonne qualité nutritionnelle, on peut faire beaucoup pour la prévention des maladies cardiovasculaires, c'est sûr et certain, mais c'est sûr qu'il y a une composante génétique aussi qui fait en sorte que même si on fait tout ce qu'il faut, mais on peut quand même avoir des maladies cardiovasculaires. Puis ça, je pense que c'est un message qui est important de communiquer, pas juste pour les maladies cardiovasculaires, mais pour d'autres maladies chroniques, comme par exemple le diabète de type 2. Tu sais, il y a des gens qui se font faire des diagnostics, puis ou qui vont carrément avoir un infarctus, puis qui vont avoir des grosses conséquences psychologiques après avoir développé des maladies comme ça, parce que tu sais, ils regardent les journaux, puis ils se font dire que ben toutes ces maladies-là, c'est dû aux habitudes de vie. Puis, tu sais, mm-hmm. si tu as eu des maladies, ben, c'est à cause de tes habitudes de vie. Puis, il y en a qui vont regarder ça et se disent, ben, voyons donc, c'est de ma faute si j'ai fait un infarctus, c'est de ma faute si j'ai développé le diabète de type 2.
Puis pourtant, j'essaie de faire tout comme du monde, puis ça marche pas.
C'est ça. Puis, même des gens qui font tout croche, puis, ouais. puis ils ont juste une génétique qui les prédispose pas à ces maladies-là, ben, les autres, tu sais, ils vont se permettre de juger les autres, puis tout ça, ben, voyons, tu sais, ouais. moi, j'ai pas les habitudes de vie, puis. J'ai un poids santé puis je développe pas de maladie, tu sais, mais finalement ils ont tiré le bon jeu de cartes
ouais, le trigénétique là. Tout ce monde là qui ont des habitudes de vie misérables mais qui ont l'air de s'entraîner 7 fois par semaine là, tu sais.
Ouais, c'est ça. Ben puis le poids aussi c'est la même chose là, tu sais, il y a la génétique, je pense qu'on sous-estime beaucoup l'importance de la génétique dans la régulation du poids corporel. Puis c'est drôle parce que justement puis ça, je veux dire, ce que je viens de dire là, c'est basé sur des faits là, tu sais. Ouais, ouais. Il y avait eu un sondage que j'ai regardé il y avait sondé la population américaine. Puis les gens étaient capables de d'identifier c'était quoi les différents traits humains qui avaient une composante génétique. Comme par exemple, si on leur posait la question, ben tu sais, est-ce que la couleur des yeux c'est génétique? Ben là, tu sais, oui. Puis ils étaient capables de l'identifier. Est-ce que les opinions politiques, par exemple, il y a une composante génétique? Ben non. Puis ça, les gens étaient capables de l'identifier correctement. Puis ils faisaient comme une courbe là, tu sais, que la composante génétique perçue par le public versus la composante réelle, puis le point qui s'éloignait le plus de la courbe, c'était l'obésité, justement. Parce que les gens, ils pensent que le poids s'est régulé seulement par notre volonté, puis notre nutrition, puis nos habitudes d'activité physique, alors que il y a des grosses composantes génétiques au poids. Puis l'autre aussi, ce qui est fait intéressant, celui-là que les gens pensaient qu'il y avait une composante génétique, mais qui ne l'avait pas nécessairement, c'était l'orientation sexuelle aussi.
Ah ouais, hein?
Fait que c'est ça. Puis tu sais, je veux dire, la génétique du poids, ça, on connaît les études là, depuis, tu sais, la fin des années 80, 90. Ouais. Il y avait eu des super belles études qui ont été faites par un chercheur américain qui s'appelle Mickey Stuncard. Lui, ce qu'il avait fait, c'est un chercheur américain, il avait voyagé au Danemark parce que là-bas, ils ont des bases de données populationnelles vraiment intéressantes. Puis c'était posé plusieurs questions. Tu sais, c'était dans les années 80, on n'avait pas tous les outils génétiques de séquençage du génome qu'on a aujourd'hui puis que nous, on fait présentement.
Les fameux outils du séquençage du génome. <C'est sûr. rire> On les utilise ici au studio SF.
mais c'est de plus en plus accessible au grand public aussi, par exemple.
D'aller voir vraiment, d'aller checker ton ADN dans le fond.
Oui, exactement. Là. Donc lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il s'était posé la question, si on réunissait des jumeaux, tu sais, dans les études génétiques, souvent, on va étudier des jumeaux parce qu'ils partagent le même génome. Là. Donc, ils ont les mêmes variations génétiques, les jumeaux monozygotes. Puis, il avait regardé des jumeaux qui avaient été séparés à la naissance, donc qui avaient vécu dans des familles qui étaient complètement différentes. Puis, il était capable de trouver une corrélation presque parfaite avec le poids des jumeaux. Donc, si jumeau 1 pesait 150 livres, le jumeau 2 pesait entre 145 puis 155. Ah ouais. Là, c'était sûr et certain.
Malgré d'être un environnement complètement différent.
Exactement. Puis, il avait même fait des études chez les enfants adoptés aussi. Donc, il avait pris le poids des parents des enfants adoptés, donc les parents biologiques, puis les parents adoptifs, puis il avait fait la démonstration que il y a aucune corrélation entre le poids des enfants et leurs parents adoptifs, mais que la corrélation est super bonne entre le poids des enfants et le poids de leurs parents biologiques. Wow. Fait que c'est comme de dire que le poids est régulé davantage par les gens qui te transmettent leurs gènes plutôt que les gens qui t'élèves puis qui te nourrissent à tous les jours. Là. Ouais. Donc, c'est vraiment... Puis ça, on sait ça, comme je vous dis, depuis les années 80. Puis tu sais, moi, je parlais... tu me parlais tantôt que on pouvait faire des tests génétiques. Puis moi, je les ai fait, ces tests-là. Ouais. Puis c'est vraiment drôle. Tu sais, j'ai fait ça il y a peut-être une dizaine d'années je vais nommer la compagnie, là, par 23andMe. Tu sais, où ça commençait au début. Puis tu sais, moi, je m'intéresse à la génétique des maladies cardio-métabolique, puis tout ça. Fait que je me suis dit, c'est vraiment le fun. Tu sais, je vais leur envoyer un échantillon de salive, puis ils vont me donner tout mon génome. Puis, tu sais, ça va être vraiment, tu sais, une expérience positive. En plus, eux autres, ils colligent ça sur des dizaines de milliers de personnes. Fait qu'ils peuvent trouver des nouveaux gènes de susceptibilité aux maladies, puis tout ça. Fait que là, finalement, après, ce qu'on a su, c'est qu'ils vendaient comme toute notre information génétique aux GAFA, puis tout ça.
Pour faire des clones,
là. C'est ça. Fait que je pense que je le referai aujourd'hui, mais finalement, tu peux regarder plusieurs rapports. Puis moi, il m'avait dit, on a regardé, je sais plus combien, on a regardé 400 variations dans ton génome. Puis avec ton âge, ton sexe, on est capable de dire que t'as un indice de masse corporelle de 28. Puis ben mon indice de masse corporelle, c'est pas mal 28.
Ah ouais, hein?
Puis moi, ça, en fait, ça a été une des façons pour moi de dire ah ben ok, là, c'est le poids que j'ai. Je sais que le poids que j'ai, il va toujours être 4% supérieur à la moyenne populationnelle. Là. Fait que mm-hmm. c'est comme moi, mon poids naturel. Là. Fait que si je perds du poids, ben mon poids à un moment donné va revenir à ce point-là. Puis si j'en gagne, ben il va peut-être revenir naturellement à la distribution populationnelle. Fait que la génétique, c'est vraiment un facteur important pour la régulation du poids.
C'est ce qui expliquerait, j'imagine, pourquoi, quand on parle de culture de diète, puis qu'on parle que tout le temps, même si les gens font une diète, puis qu'il y a une perte de poids attribuée à un changement drastique d'habitude de vie, ça tient jamais parce qu'au final, tu reviens essentiellement au poids que t'es programmé, dans le fond. C'est ça que j'entends, là.
Exactement. Donc, c'est vraiment bien démontré. Tu sais, aujourd'hui, présentement, l'évolution de l'espèce humaine a fait en sorte que on est résistant aux diètes, là. Il y a eu des dizaines...
On est diet-proof, c'est fou parce que... OK, continue, excuse-moi.
Je sais où est-ce que tu t'en vas, mais il y a des dizaines de mécanismes biologiques qui font en sorte que c'est à peu près impossible de perdre du poids. Puis, tu sais, comme je vous le disais tantôt, il y a plusieurs facteurs génétiques. Il y a plus que 1000 régions dans notre génome qui vont influencer notre poids. Puis, nous, on a des travaux en cours là-dessus qui démontrent que parmi ces 1000 régions-là, il y en a au moins 70 qui sont associées à des protéines qui sont dans le cerveau. Donc, la plupart des variations dans notre génome, sont exprimées dans le cerveau, puis ça va réguler la prise alimentaire, ça va réguler la relation qu'on a avec notre alimentation, la régulation de nos émotions, la prise de décision, etc. Puis, c'est un peu normal, là, parce que l'être humain a toujours évolué, à part dans les 40 dernières années, dans un environnement que la nourriture n'était pas toujours présente, là.
Mm-hmm.
Quand tu avais l'occasion de manger, il fallait que tu manges pas à peu près parce que tu le savais pas c'était quand la prochaine fois que tu allais manger, là. Par exemple, si tu prends un gros lunch le midi, ton cerveau il sait pas que le frigidaire il est plein chez vous puis que
tu vas en prendre un autre en revenant.
Exactement, parce que tu vas avoir faim, pis tu vas avoir des mécanismes d'appétit qui vont se mettre en place 3-4 heures plus tard, puis tu vas manger autant quand même, là. Mm-hmm. Donc ça c'est une des composantes de l'aspect biologique aussi. Puis tu sais, quelque chose qu'on voit aussi surtout chez les femmes, c'est qu'il y a beaucoup d'hormones aussi qui vont réguler notre prise alimentaire. Il y en a une par exemple dont on parle pas beaucoup, tu sais, quand on parle d'hormones, souvent on va parler des hormones thyroïdiennes, de l'insuline, ces choses-là, mais une hormone qui est sécrétée par notre tissu adipeux, donc par nos cellules graisseuses, qui s'appelle la leptine. Ça, la leptine, ce que ça va faire, c'est que ça va augmenter après la prise d'un repas, puis ça va dire à notre cerveau, c'est correct, là, on a assez mangé, puis tu peux déposer à cuillère. Mm-hmm. C'est pour ça qu'après ton assiette de spaghettes, t'as plus faim, là, c'est ça, t'es correct. Il y a souvent de la place pour un dessert, par exemple.
Par magie.
Ben, c'est
ça.
Ouais, c'est ça, exactement. Puis
no stress.
C'est ça, la leptine, ce que ça va faire aussi, c'est que ça va un peu agir comme un thermostat, tu sais, pour la régulation de la température chez vous. Si la température baisse trop, le thermostat va embarquer, puis mm-hmm. le chauffage va rembarquer. C'est un peu ça. C'est comme si tu fais des diètes, si tu te prives de nourriture, la leptine, elle va baisser, puis ça, ton cerveau, il aimera pas bien ça.
Mm-hmm.
Si elle baisse beaucoup trop, la leptine, c'est comme si t'envoyais un message à ton cerveau que t'es en situation de stress, puis t'es en situation de famine. Puis ça va influencer aussi beaucoup la reproduction. Chez les femmes, comme par exemple, qui font des diètes, tu sais, sévères à un point qui vont développer des problèmes d'anorexie, par exemple, mm-hmm. C'est une des raisons pour lesquelles les menstruations vont mm-hmm. arrêter. Parce que ce que ton cerveau comprend, c'est que t'es dans une situation tellement difficile sur le plan de l'accès à l'alimentation, de l'accès aux calories, que ben là, tu n'auras pas l'énergie pour avoir une grossesse qui va durer 9 mois puis allaiter ton enfant. Donc, c'est pour ça que quand la leptine va baisser, ben les menstruations vont arrêter parce qu'ils disent, ben là, OK, on est en situation de famine. Là, fait que c'est pour ça que, dans le fond, tu sais, c'est important, puis on a des mécanismes là, de régulation vraiment bien huilés là, mm-hmm. pour résister aux diètes. Là. Fait que c'est pour ça que les gens... on le sait là, maintenant, la plupart des gens qui vont diminuer leur alimentation, leur rapport calorique, ben tu sais, ils vont perdre un peu de poids au début. Ouais. Ceux-là qui sont capables d'en perdre, ben c'est vraiment pas tout le monde. Puis ben pour ceux qui sont capables d'en perdre, ben là on va voir soit après 3 mois, après 6 mois, des fois après 1 an, ben le poids naturellement, comme on parlait tantôt, mm-hmm. il va revenir à ce qui était au départ.
Puis mettons qu'on prend la question la plus simple, mais en même temps j'ai l'impression que la réponse va être extrêmement complexe. Si j'ingère moins de calories que j'en dépense dans une journée, qu'est-ce qui se passe? Parce que, tu sais, on voit souvent, dans cette espèce de culture de diète-là, puis de minceur, puis de perdre du poids, souvent, on voit cette équation-là comme étant simplifiée au plus bas possible. Pour perdre du poids, il faut que tu ingères moins de calories que tu en dépenses. Qu'en est-il?
Ben c'est vrai là, tu sais, ça c'est une des premières lois de la thermodynamique là, tu sais, ouais. Rien ne se perd, rien ne se crée.
Ouais, exact.
fait que si t'es capable de maintenir un déficit calorique à long terme, ben la plupart des gens vont perdre du poids. Ben mm-hmm. bon, peut-être pas la plupart, parce que c'est difficile de, parce que tu sais, il y a pas vraiment d'études qui ont été faites là-dessus. Donc il y a des gens qui vont perdre du poids, il y a des gens qui en perdront pas nécessairement. Puis ça, encore une fois, il y a une grosse composante génétique, à savoir dans une situation de restriction calorique, qui va perdre du poids puis qui n'en perdra pas. Puis là, tu sais, j'ai des travaux en tête d'un chercheur même de l'Université Laval qui s'appelle Claude Bouchard qui a fait ça. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont pris des jumeaux puis ils ont pas mis sur une restriction calorique, mais ils ont mis dans un excès de calories. Donc, des jumeaux...
C'est pas mal plus le fun que la restriction. Là. Mettons que tu te fais choisir pour cette étude-là, là, c'est comment pile ou face, il y en a un qui va être dans un excès, l'autre en restriction.
Littéralement, le Thomas Tam tous les jours.
Ouais, c'est un open bar, là. Exactement.
Thomas Tam.
Mais finalement, tu sais, on pense que c'est facile là, d'être en surplus sure, énergétique, ouais. Mais c'est plus challengeant qu'on pense. Là. Mm. Puis justement, lui, ce qu'il avait fait, c'est qu'il avait pris des... Ben, c'était pas juste lui, là, c'était toute une équipe à l'Université Laval qui avait mis des jumeaux en surplus calorique pendant 100 jours. Puis, ah ouais. Donc là, tu sais, ce qui est le fun avec ce type d'étude-là, c'est que, tu sais, tantôt, je vous disais que les gènes de l'obésité, souvent, ils étaient exprimés dans le cerveau. Mais là, c'est que puis ça influence notre prise alimentaire. Mais dans cette étude-là, c'est comme si on avait tassé le cerveau parce qu'on nourrissait, les gens. On leur disait, tu sais, aujourd'hui, ben, toi, par rapport à tes besoins énergétiques, ben, il faut que tu manges, pour dire quelque chose, 3000 calories. Mmh. Fait qu'on va te donner 3000 calories aujourd'hui. Fait que c'est pas ton cerveau qui décide du nombre de calories. Ouais. Puis là, même à ça, évidemment, la plupart des jumeaux, parce qu'ils étaient justement en surplus énergétique, ben la plupart ont pris du poids. Mais encore une fois, il y en a qui ont pris 2 kilos. Il y en a qui ont pris 10 kilos. Mm-hmm. Puis si le premier jumeau avait pris 2 kilos, l'autre, il en avait pris 2. Mm-hmm. Puis si dans un autre set de jumeaux, il y en a un qui avait pris 10 kilos, l'autre en avait pris 10 aussi. Ouais. Puis ça a été fait aussi au niveau de la restriction calorique. Donc, au lieu de faire un surplus énergétique, on fait une restriction calorique, corrélation parfaite, avec une restriction calorique autant faite par l'alimentation que par l'activité physique. Mm-hmm. Parce que, ben, tu sais, on peut jouer sur la balance énergétique en diminuant l'apport, ouais. Mais aussi en augmentant la dépense énergétique. Puis dans les deux cas, les résultats étaient sans équivoque, dans le sens que on perdait du poids quand on était en balance énergétique négative, mais il y avait une variabilité interindividuelle qui était vraiment impressionnante.
Mm-hmm. On interrompt le podcast pour vous parler encore une fois d'Oxio.
Oxio!
Ça, c'est rendu le trademark. On fait juste dire le nom de la compagnie avec genre un falsetto un peu haut.
Oxio!
Oxio Doom vous en a parlé un petit peu au début du podcast, mais ils ont une politique de transparence des prix. Si vous allez voir sur leur site web, en fait, puis que vous regardez votre forfait Internet, vous allez voir exactement chaque dollar
va où. Fait qu'il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de frais cachés, il n'y a pas de variabilité. Puis, si vous avez même des questions par rapport à leur service, Dom, ils ont un service à clientèle incroyable.
Quand tu appelles là, là, c'est comme...
Quand tu chattes même avec eux.
Quand tu chattes, quand n'importe quoi, ils sont là, ils sont présents, ils sont fins. C'est comme appeler...
ta mère.
Sa mère. Ou appeler quelqu'un, tu sais, qui va te rassurer, qui va te faire sentir bien. Chez Oxo, c'est exactement ça. Ils ont vraiment le service à la clientèle à cœur. Leur plateforme est facile. Mm-hmm. Tout va bien. C'est pas compliqué. C'est vraiment de la bombe.
Pas d'affaires de trois mots de passe pour rentrer dans mon espace ou mon dossier ou des affaires complexes que vous perdez tout le temps les handles, ces affaires-là. Super simple. Utilisez le code promo sans filtre en un mot pour un mois gratuit, comme on disait tantôt. Puis si vous n'aimez pas ça, vous pouvez retourner où est-ce que vous étiez. Merci, Oxio.
Oxio, baby. J'ai l'impression que le problème avec cette diète-là, justement, de restriction calorique, c'est qu'elle n'est pas soutenable, là, dans le sens que la restriction calorique, c'est une vie à avoir faim, finalement. Là, puis ça va engendrer toutes sortes d'autres problèmes, comme des rages quand tu vas passer un McDo sur la route, puis tu ne pourras pas t'empêcher de t'arrêter, puis tout ça. Puis finalement, ça tu ne réussiras pas à maintenir cette diète-là sur le long terme.
Non, ben c'est ça. Je veux dire, la culture des diètes est tellement implantée dans notre cerveau, même dès l'enfance. Là, les personnes grosses se le font dire par leurs parents, par leur famille proche, par leurs amis à l'école. Ils vont subir de l'intimidation. Ils vont évidemment avoir tendance à se blâmer puis à mettre ça sur leur faute, puis à mettre ça sur le fait qu'ils manquent de volonté puis qu'ils sont paresseux puis qu'ils sont pas capables de se contrôler puis tout ça, alors que c'est comme je vous le dis depuis tantôt, c'est génétique, puis notre manque de volonté a rien à voir avec le poids qu'on a, puis ça va devenir extrêmement stigmatisant pour les personnes de vivre ce regard là de la société qui leur dit que ben leur corps il est pas conforme au standard de beauté, à l'acceptation, au standard corporel que ben justement l'industrie des régimes, l'industrie des diètes, l'industrie de la publicité, du marketing qui est là pour essentiellement vous le dire que ben vous devez être insatisfait de votre poids, puis ben pour devenir satisfait de votre poids, ben il faut changer votre corps, même si votre corps est parfaitement valide. Que dans le fond, puis évidemment, on va avoir des produits pour ça, puis tu sais, achetez-le, puis consommez notre produit, puis vous allez fitter dans le moule de la société, puis vous allez vous conformer. Parce que c'est ça que les jeunes veulent là, aussi. Tu sais, moi, je le vois, là, j'ai une fille qui est à maternelle, j'en ai un autre qui est un petit peu plus jeune, puis je le vois, là, leur désir de se conformer, d'être dans la moyenne, de la validation par les pairs, à quel point c'est tellement important, ben, tu sais, imaginez, parce que dans le fond, t'as tiré comme le mauvais jeu de cartes à loterie génétique, puis évidemment, on peut entrer dans toutes sortes d'enjeux socio-économiques, des enjeux de climat familial, etc. Ben, ça peut devenir vraiment dommageable à long terme chez ces gens-là qui vivent dans cette culture-là pendant des années, là, souvent, c'est toute une vie à avoir une estime de soi qui est vraiment mise à mal par la société dans laquelle on vit, par le regard que les autres ont sur nous. Là.
Une personne qui, mettons, qui a une alimentation qui est pas optimale, mettons, puis qui est sédentaire, est-ce que, mettons, de changer ses habitudes de vie-là, commencer à bouger, commencer à mieux manger, plus de fruits et légumes, etc., est-ce que ces changements-là vont résulter souvent en une perte de poids ou pas nécessairement?
Ben peut-être. Peut-être que oui, peut-être que non. Tu sais, on le sait pas, là. Puis, tu sais, moi, ce que j'entends souvent, tu sais, comme par exemple, quand les gens vont consulter leur médecin, par exemple, puis, tu sais, sont en situation de surpoids ou d'obésité, puis, ben, ils vont voir leur médecin pour consulter pour n'importe quoi, un problème de genoux, des migraines, ou, tu sais, peu importe. La première chose qu'ils vont se faire dire, ben, tu sais, c'est perdre du poids. OK, perdre du poids, oui, mais, tu sais, comment on perd du poids. Mmh, ouais. Là. On contrôle pas ça, notre poids, là, tu sais. Moi, j'aimerais bien ça, tu sais, gagner à la loterie, là, tu sais. Je vais m'acheter un billet, mais ça veut pas dire que je vais gagner à la loterie, là, tu sais. C'est comme dire, ben, si tu veux pas être dans le trouble sur la santé financière, ben, gagne plus d'argent, tu sais. Ouais. Ah, OK, tu sais.
good.
Fait que, tu sais, tu peux faire des choses pour essayer de gagner plus d'argent, mais ça veut pas dire que tu vas être plus riche, peut-être. Si tu fais des efforts, tu vas peut-être réussir, mais c'est la même chose que, par exemple, pour la perte de poids, là, tu sais. Ouais. Ce qu'on va dire aux gens, ben, tu sais, c'est justement comme tu le dis, Doom, c'est améliorer vos habitudes de vie, tu sais, manger plus de fruits, plus de légumes, tu sais, plus de protéines d'origine végétale, essayer d'augmenter votre consommation de grains entiers, tu sais, buvez pas trop de liqueur, buvez de l'eau à la place, etc., tu sais, puis oui, si vous êtes sédentaire, tu sais, essayez de trouver dans votre quotidien comment vous pourriez augmenter votre niveau d'activité physique, tu sais, trouver l'activité physique qui vous convient. Est-ce que ça peut être par des déplacements actifs, est-ce que ça peut être en se lançant dans une ligue de garage au hockey, est-ce que c'est en faisant de la danse, c'est peu importe, est-ce que ça peut être, mettons, pour les personnes plus âgées, en faisant plus de jardinage, etc. Ben, tu sais, moi, je suis vraiment pour ça, là, tu sais, puis je veux dire, c'est démontré scientifiquement que peu importe le poids, tu sais, le fait de faire ces changements-là, ben, ça va avoir une incidence vraiment positive sur le risque de diabète de type 2 puis de maladies cardiovasculaires, etc. Mais ça veut pas dire que ces gens-là vont perdre du poids nécessairement. Il y en a qui vont perdre du poids, mais je pense que la plupart des gens en perdront pas. Mais ce que je sais, par exemple, c'est que tout le monde va améliorer sa santé. Mmh. Là. Fait que c'est pour ça que quand on parle du traitement de l'obésité, par exemple, ben, tu sais, moi, je vois essentiellement deux options. Là. C'est soit la voie des régimes amaigrissants puis de la restriction calorique à l'extrême qui va faire perdre du poids à certaines personnes, mais surtout, ça ne fera pas perdre de poids à long terme. Puis même, justement, quand tu fais ça, ben souvent, tu vas reprendre le poids. Puis, ben, tu sais, ton cerveau, il va s'en rappeler de ça, puis il va dire, « Hey, là, j'ai pas aimé ce que j'ai vécu, là. Fait que je vais augmenter mon 7 pointes, là, puis je vais m'assurer que je vais maintenir le poids que j'ai, là. Je vais le monter d'une coche. » Fait que si tu fais toujours ces cycles-là de perte de poids, de regain de poids, ça s'appelle les diètes yo-yo, ben, à la fin de la journée ou à la fin de l'année, ben, ton poids va être plus élevé que ce qui était au départ. Puis ça, vraiment, ça a vraiment pas d'effet sur la santé. Si ça a des effets sur la santé, ben, ça va être des effets néfastes, puis ça a des effets vraiment toxiques sur ton estime de soi, sur la santé mentale, la relation que tu as avec ton corps ou avec la nourriture. Fait qu'il y a comme, je vois juste des mauvais côtés, moi, à ça. Puis mais d'un autre côté, tu peux dire, ben, comme tu as dit, ben, tu sais, essayer de bouger plus, exactement. Il y en a qui vont perdre du poids, il y en a qui perdront pas de poids, mais on le sait que tout le monde, à la fin de la journée, va améliorer sa santé. Fait que c'est pour ça qu'il faut d'abord jouer sur ce message-là, mais aussi changer les normes sociales, là, tu sais, pour dire, ben là, tu sais, le poids, c'est une variable parmi tant d'autres qui va définir une personne, puis c'est pas parce qu'une personne a un poids élevé que c'est une mauvaise personne ou qu'elle est paresseuse ou elle manque de volonté. C'est un attribut de cette personne-là. C'est pas à ces personnes-là de modifier leur corps pour adhérer aux normes sociales. C'est aux normes sociales à évoluer pour être sûr qu'on crée un environnement qui est inclusif pour toutes les personnes, peu importe leur poids.
Puis sachant que, justement, tu sais, comme on explique depuis tantôt, que le poids est majoritairement influencé par la génétique, finalement, mais aussi, tu sais, mais les problèmes cardiovasculaires, héréditaires, tout ça. Mais ça peut être, dans un sens, rassurant de savoir, OK, ben mon corps, il est juste comme ça. Puis, c'est pas parce que je suis paresseux, c'est pas parce que je suis pas bon, c'est juste comme ça. Mais inversement, si je suis quelqu'un qui souffre de maladies cardiovasculaires qui sont héréditaires, est-ce que je suis voué être malade ou quand même des choses que je peux faire pour essayer de renverser ça, même si j'ai une prédisposition génétique qui est pas favorable, mettons?
Non, ça, c'est une super bonne question. Puis effectivement, tu sais, on a fait beaucoup de progrès sur la prévention des maladies cardiovasculaires dans les 70 dernières années. Tu sais, après la Deuxième Guerre mondiale, là, les hommes, là, puis tu sais, regardez la mortalité de vos grands-parents, par exemple. Souvent, dans notre famille, on a tous un grand-père ou un grand-oncle qui est mort mort d'une crise du cœur à, à 55 ans. Puis, tu sais, c'était vraiment un fléau à cette époque-là. Puis, on a fait des progrès spectaculaires sur la prévention des maladies cardiovasculaires, que ce soit avec des médicaments, avec des nouvelles techniques chirurgicales, puis en, en prévention de certains facteurs de risque. Là. Donc, souvent, tu sais, évidemment, quand tu fais un infarctus à 55 ans, mais c'est parce qu'il y a une bonne composante génétique à ça. Parce que c'est pas tout le monde qui fait des infarctus non plus. Puis, ben effectivement, je veux dire, il y a plusieurs façons qui sont supportées par la science de diminuer son risque, même si on a une histoire familiale, même si on a un profil génétique qui est peut-être pas optimal, parce que justement, on a tiré le mauvais jeu de cartes à la loterie génétique des maladies cardiovasculaires. Ben, le fait de bien manger, le fait de bouger, le fait de prendre ses médicaments aussi, tu sais, des pilules contre le cholestérol, contre l'hypertension, même, tu sais, souvent, on va dire des prendre ou de prescrire ça à des gens qui ont déjà fait un infarctus, mais là, peut-être que dans ces situations-là, on pourrait donner des médicaments à titre préventif parce que justement il y a une histoire familiale là. Fait que tu sais souvent moi tu sais quand j'entends ça que tu sais les maladies cardiovasculaires c'est essentiellement juste dû aux habitudes de vie, ben tu sais c'est basé sur une science qui est pas très solide, disons là, tu sais que c'est des études observationnelles, t'es pas capable nécessairement d'établir un lien de cause à effet entre tout ça. Puis ben justement moi ce que je dis c'est chez ces gens-là, ben tu sais prenez-en des médicaments, là, ça va vraiment orienter la, diminuer la trajectoire du risque, puis ça va diminuer votre risque. Là, tu sais, je veux dire, moi, j'ai vu récemment que j'avais un cholestérol qui était élevé. Là, tu sais, moi, je fais mes 150 minutes d'activité physique par semaine. Tu sais, je veux dire, je mange quand même bien. Là, tu sais, j'ai une alimentation presque entièrement végétale. Mais là, je veux dire, mon médecin m'a dit, ben là, tu sais, ton cholestérol est élevé. Puis aussi, bon, j'ai regardé aussi mes facteurs génétiques qui étaient peut-être pas nécessairement favorable. Fait que là, je me dis, tu sais, je pense que je vais prendre une pilule contre le cholestérol. Là, tu sais, je veux dire, il y a tellement de désinformation aussi là-dessus. Là, c'est complètement fou là, sur le cholestérol puis la santé. Là, tu sais, si tu regardes les en tout cas, je n'encourage pas les gens de faire ça. Là, mais tu sais.
Mais c'est quoi qu'on entend principalement comme désinformation?
Ben, c'est que les pilules contre le cholestérol, par exemple, que c'est inutile, que c'est inefficace, qu'il y a trop de gens qui en prennent pour rien. Puis finalement, que le cholestérol, c'est pas vrai, que c'est un facteur de risque des maladies cardiovasculaires. C'est pas mal la même rhétorique que les théories conspirationnistes sur la COVID. Là, moi, je suis juste content d'entendre ça parce que pendant ce temps-là, j'entends plus les théories du complot sur le cholestérol.
Ils sont occupés à autre chose.
Exactement. Là. Donc, c'est ça. Fait que, tu sais, je veux dire, les je pense, parce que il y a des études assez bien faites là, qui démontrent que, ben, finalement, tous les effets secondaires qu'on parle de ces médicaments-là, tu sais, sont pas si importants que ça, là, tu sais. Puis en plus, c'est des médicaments qui sont génériques, qui coûtent à rien. Fait que c'est ça. Moi, quand j'ai vu que j'avais un profil de risque qui me mettait peut-être à risque, je me suis dit, ben écoute, je pense que je suis rendu là. Puis je suis pas à la fin du monde, je suis pas une mauvaise personne pour autant. Là, c'est, prendre sa santé en main, c'est important. Là, souvent, il est souvent trop tard pour décider de prendre sa santé en main, mais il est jamais trop tôt. C'est un peu comme investir dans un REER. Plus t'es jeune, puis t'investis, ben, plus tu vas avoir des bénéfices qui sont à long terme, alors que si tu commences à cotiser à ton REER à 58 ans, ben là, tu sais, t'en verras pas tant de bénéfices que ça.
Ça fait deux fois que tu le mentionnes, puis ici, on en a parlé aussi souvent au Studio SF, au S'en fait le podcast, de l'alimentation végétale pour la santé cardiovasculaire. Puis moi, je suis vegan, personnellement, puis dans ma transition, on a aborder les arguments éthiques, les arguments environnementaux qui étaient hors de tout doute puis desquels on posait plus de questions. Par contre, les arguments de la santé ont été challengés souvent. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui prône que la viande rouge est mal pour vous, sauf que ça a été remis en question par des études, notamment les conversations qu'on avait avec Olivier Bernard, là, le pharmacien, qui disait que c'était pas si clair que ça, qu'il y avait un lien. Toi, tu dis prône une alimentation végétale. Est-ce que la viande a des liens de causalité avec les maladies cardiovasculaires ou la santé cardiovasculaire? Qu'est-ce que la science nous dit là-dessus? Là?
Bon, je suis content que tu poses la question.
J'ai vu que
tu
avais mangé au Love en plus hier. T'en as profité pour.
Ben ouais, tant qu'à venir à Montréal.
Un des bons.
Exactement. Fait que, non, Effectivement, comme je te dis, ben, tu sais, toi, t'es vegan. Moi, j'ai essayé de l'être. Ça a duré 48 heures, là, avec deux petites filles qui veulent du bacon. Ouais, là, c'est plus facile.
C'est eux qui décident.
Ouais, c'est ça. C'est pas moi qui décide tant que ça, là.
Quand le bacon, il est cuit devant toi, c'est plus dur de dire non.
Ouais,
il
puis,
je l'expérimente des fois de voir le bacon, là, faire non.
Ah ouais, puis autre parenthèse sur le bacon aussi, tu sais, le bacon vegan, moi, j'aime bien ça.
Ouais.
Mais le regard de désespoir que j'ai eu quand j'ai fait goûter ça à mes filles, là, c'était même si en tout cas fait
parce qu'elles elle s'attendent au goût du bacon. Toi, tu sais que t'auras pas le goût du bacon, mais elles s'attendent à ça encore.
C'est dire à quel point nos mécanismes centraux sont importants dans notre quête de trouver quelque chose qui est gras, salé, satisfaisant. Là, quand tu regardes tes enfants, là, t'as beaucoup de réponses à tes questions quand tu fais ça. Fait que pour en revenir à ta question, ben moi je pense que tu sais, on peut se poser des questions. Est-ce que tel aliment est meilleur que l'autre? Est-ce que... je pense que ce qui est important, c'est de regarder l'ensemble de l'alimentation, la qualité de notre alimentation. Parce que tu peux avoir une alimentation végane qui est
dégueulasse.
Exactement. Ouais, ouais. Je veux dire, une poutine végane avec un Coke, ça reste quand même végane.
Tu peux arrêter à chaque fois que tu es en route pour avoir un burger végane.
Exactement.
Avec des frites et des cornes.
Puis c'est la même chose au niveau des diètes carnivores. Ben, tu sais, je veux dire, tu peux manger une espèce de petit tataki de bœuf avec ta purée d'avocat, avec ta salade niçoise à côté, un petit verre de vin. Mm-hmm. Tu sais, ce sera pas nécessairement dommageable pour ta santé, on s'entend là-dessus.
Mais à alimentation égale, parce que c'est tout le temps ça la question, tu sais, parce qu'évidemment, quelqu'un qui maximise son alimentation, pratiquement peu importe ton type d'alimentation, ça va être positif, tu sais. Mais à alimentation égale, est-ce qu'il y a des différences?
Ben, c'est difficile parce que, tu sais, il n'y a pas d'études cliniques randomisées, contrôlées là-dessus, là, tu sais. Fait qu'à partir de là, on peut juste spéculer essentiellement, là. Mais, tu sais, une des raisons pour laquelle les lignes directrices, puis, tu sais, Santé Canada, puis, bon, l'American Heart Association aux États-Unis vont suggérer aux gens de se tourner vers une alimentation végétale, ben c'est aussi pour diminuer les gras saturés, là, tu sais, je veux dire, ça aussi, je comprends que c'est débattu, là, mais je pense qu'il y a quand même un consensus qui dit que, tu sais, moins tu consommes de gras saturés, tu sais, les gras saturés, on va retrouver ça dans les produits laitiers, dans les produits de viande rouge, etc., ben, tu sais, je pense que ta santé va mieux. Ouais, ben, c'est ça. Mais effectivement, tout ça s'inscrit dans un contexte de qualité nutritionnelle. Mm-hmm. Fait que, tu sais, moi, quand je regarde les études en nutrition qui dit arrêtez de manger tel aliment parce que ça cause le cancer, puis tout ça, ben là, tu sais, probablement, il n'y a pas d'études randomisées qui ont été faites là-dessus, là, puis quand tu te mets à ajuster pour d'autres facteurs qui sont corrélés avec la consommation de cet aliment-là, tu sais, il faut faire attention, là. Fait que, tu sais, oui, il faut en prendre de ces études-là, mais moi, je pense que le message que ces études-là envoient, c'est que, tu sais, suis les recommandations du guide alimentaire canadien. On a des travaux en cours là-dessus aussi qui tendent à démontrer que c'est effectivement bénéfique pour la santé. Puis encore une fois, il faut pas viser la perfection dans notre alimentation. Tu sais, j'en parlais tantôt au niveau de l'activité physique. Mm-hmm. Quand on est au 90e percentile, tu sais, je veux dire, il y a pas de gros gain à faire que de monter au 100e percentile. Mais pour les gens qui ont une qualité nutritionnelle qui est peut-être en bas de la moyenne, ben tu sais, de faire des petits efforts, là, c'est là qu'on va faire des gains, je pense, en santé publique, là. Fait que, tu sais, ça, c'est une chose qu'on essaie de passer comme message, mais c'est aussi, tu sais, on le voit présentement avec le prix des aliments qui est d'exploser.
On se frappe un peu au mur du socio-économique, là.
Exactement. Puis, tu sais,
c'est d'acheter des légumes, ça coûte un bras, là.
C'est ça. Fait que les gens qui sont privilégiés vont pouvoir continuer à bien s'alimenter parce que, ben, tu sais, ça occupe un petit pourcentage de leur budget. Mm-hmm. Fait que, tu sais, que ton alimentation passe de je sais pas, moi, de 16 à 18 % de ton budget, ben, tu sais, ça change pas grand chose, mais quand c'est la moitié de ton budget qui passe dans l'alimentation, là, tu sais, tu vas faire des choix qui seront pas nécessairement bons pour la santé. Fait que, si on veut faire des gains en santé publique, moi, je pense qu'il faut vraiment faire en sorte de qu'il faut démocratiser l'accès à une alimentation de bonne qualité pour les populations les plus vulnérables, pour les gens qui vivent par exemple dans des déserts alimentaires. T'sais, on voit ça, on voit ça en région, on voit ça dans les grands centres aussi. T'sais, autant à Montréal qu'à Québec, des fois c'est extrêmement difficile de trouver un commerce de proximité qui va offrir des aliments frais, variés,
à un prix raisonnable.
Exactement.
On a fait l'expérience l'autre fois, là, tu sais, on s'est passé le commentaire dans le char quand on était misérable, qu'on mangeait les hot dogs du Ikea, là. On était là, on se dit, on avait 6 hot dogs, une liqueur, ça nous a coûté 5,15$, là. C'est comme, comment est-ce que je...
Il n'y a rien qui peut rivaliser.
Il n'y a rien qui rivalise avec ce prix-là.
En termes de calories ingérées versus prix, là,
ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens.
Puis en termes de satisfaction aussi, on va se dire, c'est des aliments qui sont palatables. Là, on aime ça. Puis bon, on ne se sent peut-être pas nécessairement super bien après, coup, quand on mange ça, on a du plaisir. Là, puis il faut aussi considérer cette notion-là de plaisir dans l'alimentation aussi. Puis je pense que probablement la plupart d'entre nous ont des efforts à faire pour aller chercher un peu plus de plaisir dans une alimentation un peu plus variée, plus saine, mais il faut se forcer, il faut cuisiner, il faut apprendre des recettes, puis ça. Fait que c'est vraiment pas facile, là, c'est sûr et certain.
Je disais dans une entrevue que tu avais faite que tu prônais, mais tu disais que, mettons, en termes de type d'alimentation, la diète méditerranéenne serait une bonne façon de s'alimenter. C'est quoi, en gros, la diète méditerranéenne?
Ben oui, la diète méditerranéenne, c'est une des bonnes façons de s'alimenter, mais c'est aussi la seule qui a un essai clinique randomisé, contrôlé, qui a été fait chez 7500 personnes. C'est une étude espagnole, c'est l'étude Predimed, ça a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2013.
Okay, c'est sûr, c'est dans plein podcast. Ça, c'est les notes de pour les gens qui nous écoutent, ça, en dissertation, c'est les notes de bas de page. Là.
Non, mais ce que vous savez pas, c'est que je me force depuis tantôt pour pas les dire.
Ah ouais, OK, parce que t'es connais toutes depuis tantôt. Mais toi, tu fais bien de la nommer, celle-là est unique.
Ouais, là, je t'ai échappé une. Là. C'est probablement une des seules études en nutrition là, que tout le monde devrait parler. Là. Puis, effectivement, ben, eux, ce qu'ils avaient pris, c'est qu'ils avaient pris 7500 Espagnols. C'est une étude qui avait été faite en Espagne. Puis ils les avaient séparés en trois groupes, dont un groupe que c'était, ben, tu sais, continuer le business as usual. Il n'y avait pas vraiment de restrictions, mais ils décourageaient un peu la diète méditerranéenne, là, même si c'est pas nécessairement éthique de le faire, là, parce que c'est ça une des raisons pour laquelle c'est difficile de faire des essais cliniques randomisés. Tu peux faire des essais cliniques randomisés sur le tabac et sur l'alcool, là, parce que c'est pas éthique de dire à des gens...
Fait qu'avec business as usual, continuer, mais...
On va te les donner. Puis dans l'autre, dans les deux autres bras de traitement, ce qu'il avait fait, c'est que il avait dit aux gens de manger davantage méditerranéen, donc plus de fruits, plus de légumes, avec beaucoup d'huile végétale, beaucoup plus de noix par exemple. Puis là, ces gens-là, ils leur en donnaient, tu sais. Okay. Puis ils en mettaient partout là, de l'huile d'olive, là, tu sais, c'était quasiment un litre par mois. Là.
Oh.
Il en mettait là, pas à peu près. Puis, c'est de manger, par exemple, plus de poisson au lieu de la viande, d'essayer de diminuer les sucreries, les pâtisseries, tu sais, au dessert, de peut-être, mettons, consommer un yogourt au lieu d'une pâtisserie, puis, tu sais, d'augmenter sa quantité de fruits et légumes.
C'est sur combien de temps?
Ça avait duré, si je me souviens bien, 5 ans. Fait que c'est chez des gens qui étaient à haut risque de maladie cardiovasculaire. Okay. Pas seulement des gens qui avaient fait un infarctus, il y en avait peut-être qui n'avaient fait, mais chez des gens, tu sais, qui avaient un cholestérol élevé, tension artérielle, tu sais, que tu voyais que selon les algorithmes de traitement, là, ils étaient les algorithmes de prédiction, pardon, étaient dans une catégorie de haut risque de maladie cardiovasculaire. Puis ils ont regardé justement la différence entre ces groupes-là. Puis ben, il y a une réduction du risque d'avoir des AVC et d'avoir des infarctus d'à peu près 30% chez les gens qui étaient randomisés sur la diète méditerranéenne. Fait que ça, c'est super important comme étude, parce que c'était une des plus grosses qui avait été faite sur le sujet. Il y avait déjà une étude en France qui avait été faite sur le sujet. Puis, c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, c'est 30%. Fait que, tu sais, c'est pas 100% non plus. Tu sais, c'est 30%. C'est à peu près le même effet qu'une pilule contre le cholestérol va te donner. Tu sais, fait que C'est super bon, c'est basé sur des données probantes, mais c'est pas non plus la panacée. Là. Fait que si tu combines les deux, il y a pas d'études là-dessus, mais on pense que c'est probablement le plus important. Puis aussi, ce qui est important de noter aussi, c'est que dans cette étude-là, il y a pas eu de perte de poids non plus. Là. Mm-hmm. Les gens étaient sur la diète méditerranéenne, ils pesaient le poids des gens à la fin de l'étude, chez les gens qui étaient sur la diète méditerranéenne puis chez les gens qui étaient sur l'autre diète, était exactement pareil. Donc, puis l'étude française, c'est exactement la même chose. Fait qu'il n'y a pas encore une étude qui a démontré que la perte de poids par la modification des habitudes de vie c'était associé à des bénéfices sur la santé cardiovasculaire non plus. T'sais, on dit aux gens, là, perdez du poids, ça va diminuer votre risque, mais il n'y a pas encore une étude qui a démontré ça.
Il n'y a pas d'études qui prouvent ça.
Puis il y a des études qui ont essayé aussi là, de démontrer ça. Puis finalement, c'était pas parce que ça ne marche pas nécessairement la perte de poids, mais c'est la perte de poids en tant que telle ne fonctionne pas. On n'est pas capable de trouver deux groupes, de randomiser un groupe sur une perte de poids puis de l'autre groupe sur pas de perte de poids parce que les gens qui sont randomisés dans le groupe perte de poids, ils sont pas capables de perdre du poids même si tu leur donnes des substituts de repas, même si tu leur dis de bouger puis tout ça. T'sais. Fait qu'il y a des bénéfices à avoir une saine alimentation, mais quand tu dis aux gens, c'est ça, allez-y sur une diète, là, puis vraiment, l'objectif principal, c'est de vous faire perdre du poids, vu que ça marche pas, on n'est pas capable de faire une étude dans le sens du monde. Fait que, tu sais, il y en aura probablement jamais d'études. Mm-hmm. Tantôt, je parlais des pilules contre le cholestérol. Tu sais, moi, je le sais, si je prends une pilule contre le cholestérol, puis vous autres aussi, mais votre cholestérol va baisser, tu sais, puis il va baisser, puis cette baisse-là va se maintenir sur le long terme. Fait que on est capable de tester notre hypothèse, mais avec la perte de poids, on n'est même pas capable de tester l'hypothèse parce que, justement, les gens perdent du poids au début, puis après ça, le poids remonte, mm-hmm. puis il va se ramasser. Les deux groupes seront pas, ils vont être comparables sur la perte de poids. Fait que leur risque de développer des maladies à long terme, il va être comparable aussi. Là. Fait que ça, c'est pour les maladies du cœur. Mm-hmm. Mais pour quand on pense au poids puis la santé, souvent la première maladie qu'on va penser, c'est le diabète de type 2 aussi. Où est-ce que il y a quand même une relation épidémiologique entre les deux.
On voit la corrélation. On l'observe. C'est juste qu'on peut pas. On peut dire hors de tout doute que c'est la cause, finalement, c'est ça?
Oui, en fait, c'est plus compliqué que ça. Quand tu regardes l'association entre le poids puis la santé, c'est sûr que les gens qui vont avoir un indice de masse corporelle qui est plus élevé, statistiquement, ils vont être plus à risque de développer des maladies. Là. Je veux dire, ça, c'est démontré. Là. Honnêtement, il y a des études qui sortent à peu près à tous les jours là-dessus. Là. Okay. C'est vraiment facile de faire la corrélation entre les deux. Puis souvent, quand les chercheurs et les chercheuses ont publié des études comme ça, ça va se ramasser des médias, vont dire, l'obésité, ça cause le cancer, ça cause l'Alzheimer, ça cause les maladies du cœur, le diabète de type 2, la COVID, name it. Fait que ça, c'est une chose. Puis aussi, le sous-texte que ça dit, c'est que les gens ont des habitudes de vie catastrophiques. Fait que s'ils se prennent en main, ça va diminuer le risque de développer ces maladies-là. Pour faire la relation de cause à effet, il faut démontrer que cette relation-là est indépendante des facteurs confondants aussi, parce que il y a des facteurs qui influencent le poids, il y a des facteurs qui influencent les maladies, puis souvent, on connaît pas nécessairement la chaîne causale. Là, mm-hmm. dans la culture des diètes, ce qu'on dit, puis dans les médias aussi, ce qu'on dit, c'est les gens mangent mal, les gens bougent pas, donc ils sont gros, donc ils développent des maladies. Mais tu sais, c'est beaucoup plus complexe que ça en réalité, parce que ces études-là, sont pas capables de différencier les personnes grosses des personnes minces, parce que les personnes grosses, les personnes minces sont pas juste différentes en fonction de leur poids puis de leurs habitudes de vie. Tu sais, il y a un paquet de facteurs qui vont influencer le poids puis le risque de maladie, puis qui vont comme un peu briser cette chaîne causale-là. Tu sais, il y a des facteurs biologiques, il y a des facteurs familiaux, environnementaux, économiques, politico, géographiques, mm-hmm. etc. Il y a des enjeux de statut socio-économique, il y a des enjeux de racisme aussi, tu sais, qui font en sorte que c'est à peu près impossible d'isoler la composante poids dans ces études-là. Fait qu'on fait des corrélations, mais puis effectivement, moi je pense qu'il y a quand même une partie de l'effet qui est causé par la graisse, puis ça, je m'explique, puis je l'ai dit au début, c'est parce que, ben justement, les personnes grosses vont avoir statistiquement plus de chances d'entreposer l'excédent d'énergie au mauvais endroit que les personnes minces. Fait que, mais la question qu'on devrait se poser, puis tu sais, quand on fait de l'épidémiologie, puis on fait de l'inférence causale, ben on se dit, est-ce que si je modifie un facteur, je vais avoir un effet sur l'outcome de santé qui m'intéresse. Pour les maladies cardiovasculaires, pour le cancer, pour les maladies neurodégénératives, on n'a pas ces études-là, carrément pas. Pour le diabète, il y en a une étude qui a été publiée il y a une vingtaine d'années qui s'appelait le Diabetes Prevention Program. Eux, ce qu'ils avaient fait, c'est qu'ils avaient pris des gens qui étaient à risque de développer le diabète, qu'on voyait déjà qu'il y avait ce qu'on appelle une intolérance au glucose ou déjà des petits problèmes avec leur insuline. Puis ils ont mis sur justement une diète où est-ce qu'ils perdaient du poids, puis ils faisaient plus de sport, puis tout ça. Puis ça a marché. Ça a diminué l'incidence du diabète de 58%. Mais ce qui est intéressant dans ces études-là aussi, c'est que quand on a regardé les chiffres, puis quand je dis « on », c'est pas moi, là, c'est les gens qui ont fait cette étude-là, ben ils ont remarqué qu'il y avait comme une espèce de sweet spot là, de perte de poids. Puis c'était je pense que c'était 5 kilos, là, tu sais. Fait que ces gens-là, tu sais, ils perdaient à peu près 5% de leur poids corporel, entre 5 et 10%, je pense, de leur poids corporel. Tu sais, fait que si tu pèses, je sais pas, mais si tu pèses 300 livres, puis tu perds 5 à 10% de ton poids corporel, ben, tu sais, c'est 15-20 livres, là, tu sais. Fait que selon les chartes d'indice de masse corporelle, là, tu sais, t'étais en situation d'obésité, puis tu l'es encore, mais, tu sais, t'as perdu un peu de poids, puis tu l'as surtout perdu au mauvais endroit. Parce que c'est ça qui est le message qui est important de dire.
Tu l'as
aussi
perdu au bon endroit,
ben,
dans la
c'est
perte.
Ça, c'est ça, parce que tu sais, on se dit, OK, ouais, mais comment je fais pour perdre tel type de graisse, puis ça, ben, le côté positif de ça, c'est quand tu mets à bien manger, puis quand tu mets à bouger, exactement, tu sais, c'est la graisse dans le foie, c'est la graisse dans tes muscles qui s'en va en premier, parce que ben tes réservoirs de graisse là, tu sais, qui sont bénéfiques là au niveau sous-cutané, là, ben tu sais, ça c'est beaucoup plus difficile à faire changer. Puis tu sais, c'est pour ça aussi que ben quand on parle de standards de beauté, ben tu sais, c'est un type de graisse qui va majoritairement être présent chez les femmes, qui vont être les premières à être victimes de fat shaming puis de stigmatisation. Puis ben c'est un type de graisse qui est pas nécessairement néfaste pour la santé là. Donc c'est important de garder ça en tête aussi.
Ça fait 20 ans qu'on sait ça là, qu'on sait tout ce qu'on dit depuis tantôt là, à peu près sur la génétique puis sur l'impact que ça peut, que le poids peut avoir. Pourquoi est-ce qu'encore aujourd'hui on va à l'épicerie puis il y a des magazines qui sont complètement out there, transparent absolument sur 20 trucs minceurs pour Madame X, ou tu sais, pourquoi est-ce que c'est encore là? Qu'est-ce qui a pas fait la transition entre ce qu'on sait puis le public général, puis pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de législation autour de juste quelque chose qui est aussi faux comme affaire puis aussi néfaste pour la santé publique, tu sais?
Ben parce qu'on fait de l'argent avec ça.
Ouais. Mais on fait de l'argent avec les cigarettes aussi, tu sais. Puis il y a quand même eu une espèce d'effort de faire, et là, on va cacher ça au moins, puis on va mettre des poumons meurtris sur les tableaux de Billboard, là, tu sais. Mais en termes de santé publique, on n'a jamais parlé même de cette culture absolument néfaste là.
Oui, je suis entièrement d'accord avec toi. Écoute, tu sais, l'industrie des produits puis de santé puis des moyens amaigrissants, c'est une industrie de plus que 70 milliards dans le monde là, tu sais. Wow. Fait que ils s'en vont nulle part. Puis en plus, tu sais, puis c'est ça, souvent, tu sais, quand on parle d'alimentation, d'obésité, de bien-être, on va souvent à l'extrême, tu sais, de comparer ça à des cigarettes, là, tu sais. Ouais. Je pense qu'il faut faire attention un peu aussi, là, parce que, tu sais, quand on parle d'alimentation, tu sais, il faut s'alimenter 3 fois par jour, là, tu sais, c'est pas comme
si... Faut s'alimenter bien 3 fois par jour.
C'est ça, tu sais, c'est pas comme si 3 fois par jour, fallait prendre la décision de ne pas fumer, là, tu sais. Fait que c'est... Puis, évidemment, l'effet de l'alimentation puis du tabac sur la santé, ça se compare même pas, là, tu sais, c'est tellement 1000 fois pire de fumer, puis il y a aucun bénéfice au tabagiste, puis il y a juste des conséquences, puis effectivement, comme tu l'as bien dit, ben, présentement, il y a de plus en plus de législations qui sont sévères. Il y a plus de taxes qui ont été faites. Quoique, en passant, au Québec, on a un énorme rattrapage de taxes à faire sur les produits du tabac quand tu compares aux autres provinces. Là. C'est absolument ridicule à quel point c'est l'enjeu, c'est la façon la plus facile de diminuer la consommation de tabac à l'échelle de la population, ben c'est d'augmenter les taxes. Puis nous, on accuse vraiment un retard impressionnant sur
les
sur
autres les provinces. Taxes. Ouais. OK.
Des fois, ça peut même passer du simple au double, là, les taxes. Là, donc, c'est ça. Pourquoi on le fait pas?
Incompréhensible.
C'est totalement incompréhensible. C'est sûr que même...
C'est même de l'argent qui dort sur la table. Là,
absolument. On pourrait tellement, tu sais, stepper up notre game là, sur la lutte aux produits du tabac. Là, c'est incroyable. Voilà pour ça. Puis là, je me suis étendu un peu là-dessus, mais...
On disait pourquoi est-ce que c'est encore, à part le fait que ce soit une industrie à 70 milliards de dollars? Là.
Ben, c'est ça, c'est parce qu'on peut pas nécessairement dire que les messages qui sont véhiculés sont faux, sont trompeurs, mais sont peut-être pas nécessairement faux. Puis si on voit des messages qui sont mensongers, ben là, il y a des façons de les dénoncer aussi. Là, mais tu sais, je veux dire, il y a quand même peu de gens qui le font. Là, je sais qu'il y a des organismes qui scrutent ça à la loupe. Là, mais tu sais, je veux dire, ils en sont pas à leur premier rodéo. Là, ces compagnies-là, là. Ils savent c'est quoi les messages qui vont avoir un effet, qui vont sans nécessairement dire que c'est trompeur, mais il y a quand même beaucoup de ces messages-là qui sont extrêmement problématiques pour la santé mentale de nos jeunes surtout. Là. Donc c'est sûr qu'il y aurait une petite révolution à faire là-dessus. Là. Ça, je suis entièrement d'accord avec toi. Puis c'est vraiment fâchant, tu sais, quand tu travailles en santé publique, puis quand tu fais ton épicerie aussi de voir ça, ces messages-là, puis dire, tu sais, moi j'ai vraiment de la misère à aller faire mon esprit puis de voir, tu sais, les unes de magazine, tu sais, perdez 20 livres avec l'insomnie, avec l'hypnose ou des choses comme ça. L'insomnie, c'est plutôt le contraire. mais non, c'est ça, tu sais, je veux dire, c'est pas démontré scientifiquement, puis c'est faux aussi, tu sais, il y a pas d'études là-dessus, mais j'aimerais bien ça pouvoir te donner une meilleure réponse que ça.
J'ai l'impression qu'on arrive toujours avec des nouvelles solutions. Comme si là, on avait trouvé, tu vas boire un jus de céleri par jour, puis là, ça va marcher, ou tu vas te faire hypnotiser, ça va marcher. Tandis que, dans le fond, la solution, on la sait depuis longtemps, c'est bien manger, entre guillemets, qui est, comme on disait tantôt, manger le plus de fruits et légumes possible, manger des noix, manger éviter les produits transformés, puis bouger. C'est juste que ça, tu sais, l'industrie, on dirait que le lobby du brocoli, il faut manger plus de brocoli, c'est pas le plus bruyant, là, tandis que la compagnie de jus minceur, de ci, de ça, les autres, ils vont faire de la pub, les autres, ils vont essayer de se faire entendre quand que, justement, c'est ça, on est à la recherche de réponses, mais la réponse est sous notre nez depuis toujours. Là,
oh oui, écoute, moi, je suis d'accord avec toi, puis je suis toujours aussi surpris et épaté par l'ingéniosité des gens qui font de l'argent avec des choses comme le jeûne. T'sais. Comment tu peux faire de l'argent avec le jeûne intermittent, mettons, là, t'sais, alors que t'sais, c'est la dernière diète à la mode là, qui a rien de magique, évidemment, par rapport aux autres diètes. Là. Mais effectivement, puis ils réussissent à faire de l'argent quand même avec ça. T'sais, c'est de dire à quel point il y a de l'argent à faire avec l'insatisfaction corporelle. Puis tu l'as dit, la solution, tu me dis la solution, c'est quoi? Mais tu sais, c'est quoi le problème? La question que je te pose, moi, c'est quoi le problème qu'on veut régler? C'est-tu le problème du poids ou c'est le problème de la santé de la population? Ouais. Moi, je pense que c'est deux questions qui sont complètement différentes. Mm-hmm. Puis on n'a pas beaucoup de bénéfices à avoir en santé publique si on fait juste cibler le poids, alors que il y a tellement de gens, puis il y a de plus en plus de gens, tu sais, qui sont en mauvaise santé, là, tu sais, je veux dire, le diabète de type 2, c'est une maladie qui va en progression dans notre société, mais tu sais, si on avait des politiques publiques vraiment plus, avec plus de mordant pour démocratiser l'accès à la saine alimentation, faire en sorte qu'on arrive en 2022 avec un aménagement urbain qui est propice à l'adoption de saines habitudes habitudes de vie, mais on ferait d'énormes gains là-dessus plutôt que d'envoyer des messages justement directement aux consommateurs qui sont très stigmatisants aussi mm-hmm. sur le poids là. Donc moi c'est là-dessus que j'ai envie de me battre là, pour qu'on change nos politiques publiques, pour qu'on mette la santé des gens puis la santé de l'environnement aussi, parce que tu sais mm-hmm. ça va main dans la main en plus mm-hmm. Tu sais c'est clairement démontré que ben plus on fait de transport actif, plus on est en santé, plus la planète est en santé, que plus on se tourne vers une alimentation de qualité végétale, ben plus on fait de gains pour la santé publique puis la santé de la planète, tu sais. Fait que c'est de se battre contre les mm-hmm. forces de l'immobilisme là qui puis de cibler les bonnes actions pour qu'on soit capable de bien s'alimenter puis de laisser une planète à nos enfants qui va être plus habitable.
Fait que selon toi, les pistes de solution, c'est plus en travaillant puis en modifiant l'environnement autour des individus plutôt que d'essayer de conscientiser puis de dans un, pas culpabiliser, mais dans un sens, essayer de changer le comportement chez l'individu. Ça va être plus par rendre justement les aliments sains accessibles, promouvoir dans la société plus l'activité physique, essayer de le rendre plus accessible finalement.
Mais ça fait 40 ans qu'on dit aux gens d'arrêter de manger puis de perdre du poids pour maigrir.
On leur a assez
dit. Ça marche pas, ouais, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. Il est temps d'explorer quelque chose. Notre avis. Tu sais, je veux dire, la progression des taux d'obésité, là, est dans tous les pays du monde, OK? Mm-hmm. Depuis les années 80, les années 90, c'est arrivé dans tous les pays. Évidemment, c'est arrivé au début aux États-Unis, bon, au Canada, au Royaume-Uni, en Europe. Mais là, c'est partout, là, tu sais. Fait que c'est comme si... puis c'est arrivé à peu près tout en même temps, là, tu sais. Fait que c'est comme si tout le monde s'était dit, « Bah, sais-tu quoi, moi, la saine alimentation pis l'activité physique, ça m'intéresse plus, tu sais. » C'est pas ça qui est arrivé, là, tu sais. C'est des changements dans notre environnement, dans l'offre alimentaire, dans les transports qui a changé partout avec les conséquences que ça a eu sur notre santé. Fait que c'est en changement l'environnement qu'on va améliorer la santé des gens là. Puis tu sais, on parle de génétique depuis tantôt, tu sais, puis moi ce que j'entends souvent comme message, c'est de dire ouais, mais tu sais, la génétique, ça a pas d'effet sur ton poids, parce que ben il y a 40 ans on avait les mêmes gènes, puis tout le monde était mince, puis aujourd'hui on a exactement les mêmes gènes, t'sais, notre génome n'a pas évolué en 40 ans, mm-hmm. on s'entend. C'est notre environnement qui a évolué, c'est vrai. Puis ça a été étudié, ça aussi, là, tu sais, il y a une cohorte en Norvège aussi qui a de l'ADN chez des gens qui vivaient dans les années 60 puis 70. Puis il démontrait que, premièrement, que dans ces années-là aussi, l'obésité, ça existait, là, tu sais, je veux dire, c'était aussi élevé qu'aujourd'hui, aussi. Mais tu sais, je veux dire, des personnes grosses, il y en a pas mal toujours eu, là, tu sais, dans l'époque moderne. Puis ce qu'il démontrait, c'est que le fait d'avoir une prédisposition génétique à un poids élevé, ça influençait ton poids, mais pas tant que ça, tu sais. Mais là, vu qu'on est dans un environnement qui est catastrophique sur le plan de l'accès à la nourriture de qualité, puis au transport, puis à l'activité physique, ben c'est les gens qui ont une susceptibilité génétique à avoir un poids élevé qui sont gros aujourd'hui. Alors mm-hmm. que, tu sais, si t'as pas de susceptibilité génétique à avoir un poids élevé, ben, t'étais mince dans les années 60, puis mm-hmm. t'es mince aujourd'hui mm-hmm. aussi, là. Fait que, tu sais, c'est vraiment des changements dans notre environnement qui ont réveillé cette susceptibilité génétique-là, puis c'est en changeant notre environnement aussi qu'on va avoir des bénéfices. Je pense pas qu'on va être capable de changer la trajectoire du poids, là. T'sais, réalistiquement, là, t'sais, je veux dire, des gens, des personnes grosses, t'sais, présentement, il y en a, puis t'sais, ils vont en avoir dans 10 ans, ils vont en avoir dans 20 ans, puis ils vont, t'sais, je veux dire, je vois pas comment on pourrait freiner la progression des taux d'obésité, là. Peut-être que ça va changer. Mm-hmm. Mais ça va prendre des changements vraiment importants. Puis tu sais, je me dis aussi, tu sais, ce qu'on veut, c'est quoi, là, tu sais, c'est-tu que les gens soient minces ou c'est que les gens soient en santé, là? Tu sais, il y a un pays dans lequel les taux d'obésité ont régressé dans les dernières années.
C'est où?
Avez-vous une réponse? Voulez-vous tenter quelque chose? Un pays scandinave?
Ben, c'est ça que j'allais dire en Finlande. Mais...
Non, c'est au Venezuela.
Okay. Ah ouais, hein.
Parce que, tu sais, je veux dire, là-bas, il y a une crise économique.
Parce qu'ils ont coupé la bouffe à tout le monde.
Ils ont un dictateur, finalement, c'est bon. Pour
les gens meurent de faim.
On va observer ça en Russie prochainement.
Ouais, ça se peut, ça aussi. Mais tu sais, les gens meurent de faim. Quand tu meurs de faim, c'est ça qu'on veut, là.
C'est ça.
Moi, je pense qu'il faut vraiment miser sur la santé, puis peu importe les résultats que ça aura sur notre poids. Puis justement, peut-être en parallèle aussi, travailler pour faire un environnement qui est plus safe pour les personnes grosses aussi, puis arrêter de stigmatiser, puis de dire à quel point tous les problèmes de santé qu'on a, c'est de leur faute, puis tout ça, alors que c'est des enjeux sociaux beaucoup plus profonds que simplement ça, que le poids d'une personne. Là.
Moi, il y a toujours quelque chose qui me frappe chaque fois que je vais à l'épicerie, c'est à quel point, premièrement, les aliments transformés, bourrés de sucre, tout ça, c'est omniprésent. Puis, tu sais, souvent, c'est vraiment destiné aux enfants. T'sais, par exemple, les céréales, les Froot Loops, ces affaires-là, tu sais, c'est comme... Puis de l'idée que ça soit répandu puis normal de comme se nourrir de ça chaque matin et donner ça à nos enfants, c'est comme il y a quelque chose pour moi qui me dépasse. Puis ça me fait réfléchir, tu sais, on a parlé souvent sur le podcast aussi de l'alimentation intuitive, tu sais, puis d'écouter les signaux de son corps, d'écouter qu'est-ce qu'on a envie de manger, de suivre ça. Puis dans un contexte, parce qu'il y a autant d'aliments tellement transformés puis qui sont faits pour être super addictifs dans un sens, est-ce qu'on peut vraiment se fier à nos signaux, à nos envies corporelles puis aux signaux que notre corps nous envoie quand il y a ces choses-là qui sont pratiquement de la cocaïne, tu sais?
Ouais, ben là, j'irai pas jusqu'à dire que de la cocaïne, là, effectivement, là, tu sais, parce qu'il faut quand même faire attention quand on parle d'addictif puis tout ça. Tu sais, je pense que effectivement, je le sais moi-même, là, tu sais, je veux dire, quand tu manges des produits ultra transformés, des fois, là, tu sais, ce que t'aimes vraiment, là, ça te procure du plaisir. Mm-hmm. Tu sais, il y a de la dopamine qui est relâchée dans ton cerveau, puis ça te procure du plaisir. C'est sûr et certain. Mm-hmm. Fait que, tu sais, les produits ultra transformés, oui, ça contribue au gain de poids aussi, là, puis au développement de toutes sortes de problèmes de santé. Mais tu sais, je veux dire, c'est pas parce qu'on est gros que ça veut justement dire qu'on mange juste des produits ultra transformés aussi, là, tu sais. Fait que, puis ça, c'est démontré aussi que dans des essais cliniques randomisés, quand on est devant un choix de prendre des produits ultra transformés ou des produits plus frais, ben, on va avoir tendance naturelle à aller vers les produits transformés. Puis aussi, en termes de calories, ben, on va manger plus de calories peut-être que dans une assiette, même ça va aller jusqu'à 500 calories de plus. Là. Fait que, c'est sûr que l'omniprésence des produits ultra transformés, ça contribue à la détérioration de la santé des gens. Là. C'est sûr et certain. Mais en même temps, je veux dire, il y a plusieurs personnes qui travaillent vraiment fort pour essayer de trouver des solutions créatives pour diminuer justement le marketing ou la présence des produits ultra transformés. Mais en même temps, c'est pas quelque chose, ça va pas disparaître là, de nos tablettes, les produits ultra transformés.
Mais dans tous les cas, en toute transparence, j'espère que non. Parce que ça me procure du plaisir quand même, là, tu sais.
Ouais.
Genre un monde où est-ce que je peux plus aller pogner mes Miss Vicky à je sais pas quoi, là, tu sais, comme c'est poche, là.
Mais ouais,
c'est fun quand même, tu sais, quand c'est fait avec une connaissance de cause, là, tu sais, ça procure du plaisir qui est le fun à faire.
Ben oui, c'est ça. Puis c'est pour ça que, tu sais, je veux dire, n'importe quel clinicien va dire que, tu sais, il n'y a pas d'aliments interdits, par exemple, tu sais. Je veux dire, si toi, t'aimes ça, les Miss Vickies, là, ben, tu sais, mange-en, là. Est-ce que tu vas en manger tous les soirs? Ben, tu sais, peut-être pas, là, tu sais. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'on a tous des choses à faire dans notre quotidien pour améliorer la qualité de notre alimentation. Mais comme je dis, tu sais, si on fait juste tous un peu améliorer, puis surtout les gens qui partent de loin, qui en font un peu plus pour, dans la mesure du possible, parce que comme je le dis, il y a plein d'enjeux socio-économiques qui entrent en ligne de compte, ben tu sais, on va faire des gains importants pour notre santé, là, tu sais, je veux dire, je pense que c'est ça, personne souhaite que des aliments qui nous procurent du plaisir disparaissent des tablettes non plus, là. De toute façon, tu sais, je veux dire, on vit dans une société libre et démocratique, là, donc, voilà.
J'ai l'impression aussi qu'il y a un haut pourcentage de pollution là, en ce qui a trait à la nutrition, surtout avec les réseaux sociaux où est-ce qu'il y a du monde avec des millions d'abonnés qui prônent une diète de jus vert là, trois fois par jour, tu sais. Ouais. Puis j'imagine que ça aussi, c'est vraiment un enjeu important, l'accès à l'information de qualité en ce qui a trait à la nutrition pour la population globale. Puis je comprends pas pourquoi, en tout cas nous, dans notre parcours scolaire, ça n'a jamais été abordé, là, la nutrition, jamais, jamais, jamais. On a parlé de... On a fait un macaroni à viande en économie familiale, mais genre, c'était entre deux séances de coupe des boxeurs, là, tu sais. Fait que genre, ça avait rien à voir. Puis, puis sinon, peut-être voir grossièrement le guide alimentaire canadien, mais encore là, le guide, en plus, à l'époque, il était limite, là, tu sais.
On en parlait un peu plus, tu sais, du côté sportif, là,
du côté sportif, parce que nous, on faisait de la natation, mais sinon, j'ai l'impression que l'accès à l'information de qualité, c'est juste, ça manque complètement, là.
Ouais, ben, je suis d'accord avec toi, mais c'est parce qu'à un moment donné, l'information, tu sais, est disponible chez, tu sais, puis les gens le savent un peu, mais ce qui arrive, c'est que cette information-là est un peu beige, là, tu sais. Mm-hmm. Le guide alimentaire canadien, c'est pas sexy, là, tu sais, Moi, à chaque fois que je parle à quelqu'un puis demande, tu sais, qu'est-ce que je devrais manger pour être en bonne santé, ben là, c'est pas compliqué, on le sait, là, tu sais, c'est les recommandations du guide. Plus de fruits, plus de légumes, boire de l'eau, de l'huile de liqueur, manger plus de produits à grains entiers, se tourner vers les protéines végétales, manger moins transformé.
L'information est là.
L'information est là, mais il y a pas d'argent à faire avec ça, tu sais. Les influenceurs feront pas d'argent avec ça. Avec personne, j'ai pas vu beaucoup d'influenceurs genre se faire une selfie avec le guide alimentaire. Ouais, ouais. Fait que non, effectivement, fait que tu sais, puis il y a énormément d'argent aussi à faire avec l'idée de d'être dans une espèce de trouble de l'opposition aussi, là, tu sais, de prétendre le contraire de ce que le consensus scientifique dit. Mm-hmm. Ça t'amène énormément de followers, puis ça peut devenir extrêmement payant. Fait que, tu sais, rendu là, moi, je sais, c'est peut-être la régulation des médias sociaux, là, mais tu sais, moi, je me lance pas là-dedans.
On tombe dans un autre dossier.
Ouais, exactement.
Mm-hmm. Ouais. Avant qu'on termine, peut-être que tu n'auras pas la réponse, mais on parlait tantôt de santé cardiovasculaire, puis il y a. Puis là, je pars du poids complètement, là, je m'en vais complètement ailleurs. Puis moi, je fais beaucoup, beaucoup de sport, là, je cours énormément, puis je veux faire des ultras, des affaires de même. Puis il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'il y ait un de mes proches qui m'envoie des études récentes qui sortent comme de quoi aller en excès dans l'activité physique peut avoir des répercussions négatives sur la santé cardiovasculaire. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu peux te prononcer un peu?
Ben, je peux essayer. Je vais te dire, premièrement...
Alors, j'imagine que tu as vu ça passer aussi.
J'ai vu ça passer, effectivement. Premièrement, juste qu'on règle quelque chose. Il y a beaucoup plus de gens qui font des infarctus par manque d'activité physique que par excès d'activité physique. Tu sais, va faire un tour sur l'étage de l'unité coronarienne. Là.
Pas beaucoup d'ultramarathonien.
Exactement, exactement. Donc, il faut relativiser. Ouais. Effectivement, il y a des études qui ont été faites, surtout avec de l'imagerie cardiovasculaire qui ont été faites, qui démontrent que chez certains athlètes de haut niveau, il y aurait peut-être un peu plus de calcium dans leurs artères coronaires. Là. Puis souvent, on corrèle le calcium aux événements cardiovasculaires. Tu sais, mettons, si tu prends des gens, mettons 10 000 personnes entre 40 et 50 ans, un des bons prédicteurs des maladies cardiovasculaires, c'est la condition cardio-respiratoire, on en a parlé tantôt. Mais un des pas pires aussi, c'est de regarder le calcium qui est présent dans tes artères. Un coup qu'on a dit ça, il faut faire attention aussi parce que chez les gens, par exemple, qui vont prendre des médicaments pour baisser le cholestérol, ça va diminuer leur risque de faire un infarctus, mais ça va peut-être un peu augmenter aussi le calcium. Puis ça, on pense que quand on change... Et là, je me rends dans la pathophysiologie de l'athérosclérose, là, mais c'est toi qui me poses la question, je vais répondre. Mais puis quand on regarde en détail qu'est-ce qui est dans la plaque d'athérosclérose, bien souvent, c'est du cholestérol, c'est des molécules inflammatoires, c'est des cellules inflammatoires. Puis ça, ça semble en fait disparaître quand on prend des statines, là, des pilules pour le cholestérol. Puis on pense que ce serait peut-être la même chose aussi avec l'activité physique. Des fois, c'est comme une espèce de mécanisme de guérison des plaques d'athérosclérose que tu vas avoir soit au niveau de ton artère carotidienne ou de tes artères coronaires. Donc, c'est pas nécessairement néfaste pour la santé. Puis ceci dit aussi, tu sais, c'est sûr que... dans, d'un autre côté, si tu as un risque génétique à avoir un arrêt cardio-respiratoire, des fois, cette susceptibilité génétique-là s'exprimera pas tant que qu'elle n'est pas mise dans une situation, mm-hmm. comme par exemple avec le sport d'endurance extrême à répétition, ben là, ça peut peut-être réveiller des susceptibilités génétiques dans ce cas-là. Là. Fait que mm-hmm. c'est pour ça que, ben, tu sais, il y a toujours du personnel médical sur les sites de marathon, puis d'ultra, puis tout ça. Là. Fait que effectivement, là, mais tu sais, est-ce que c'est un enjeu de santé publique? Non. Est-ce que, puis je sais pas c'est quoi les recommandations non plus pour, mm-hmm. Pour les athlètes, là, mais tu sais, je pense qu'il y a, il y a beaucoup de recherches à faire là-dessus aussi pour caractériser le profil génétique des gens qui vont avoir un arrêt cardio-respiratoire sur les ultra-trails, par exemple. Mm-hmm. Moi, ça serait quelque chose que j'aimerais vraiment voir, que je trouve vraiment fascinant, mais je vais laisser ça à quelqu'un d'autre.
T'en as déjà sur ta planche. Merci infiniment d'être venu.
Ben, ça me fait plaisir. Hey, merci de l'invitation, c'est les gars. Ça a été super le fun.
Yes. Un grand plaisir.
Yeah. Merci beaucoup.
C'était du contenu excellent.
Ah, c'est tout un podcast qu'on vient d'avoir. Oh yeah. Si vous voulez plus de contenu excellent comme ce que vous venez d'entendre, allez sur notre Patreon. Sur notre Patreon, vous pouvez vous abonner pour 3$ par mois. C'est ça, 3$?
Ouais, 3$ par mois.
3$ par mois et vous avez les podcasts en avance. Ça veut dire que vous êtes les premiers de votre groupe d'amis à avoir écouté les podcasts. Puis vous allez pouvoir avoir...
une avance. Quand vous allez, tu sais, la dynamique entre les amis, c'est tout le temps d'avoir une avance sur les autres.
Tu veux toujours avoir une avance sur les gens autour de toi. Ben, avec Patreon, t'as une avance sur l'humanité complète.
Puis, en plus, parce que là, je sais que le podcast finit, vous voulez nous entendre jaser davantage, on fait des encore moins de filtres après chaque podcast. Fait que là, on vient de finir de tourner le podcast. On va en jaser, on va chiller. Nicole, il est plus là maintenant. Il est encore moins de filtres. Il travaille à place. De temps en temps, il est là, mais on jase, on parle de la conversation qu'on vient d'avoir, mais ça, si vous voulez avoir accès à ça, ben, heureusement pour nous, malheureusement pour vous, c'est exclusif sur Patreon. Fait qu'il faut s'abonner.
Abonnez-vous.